Nous sommes le mercredi 8 octobre 2025, nous traitons les affaires courantes et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir Mecton.
Bonsoir.
C'est la Dream Team au complet, j'ai envie de dire. Le ministre de l'économie démissionnaire, le ministre des armées démissionnaire, enfin voilà, on a tout le monde.
Et le ministre de l'intérieur qui a trahi.
Ah oui, ah, c'est tellement beau, c'est de la musique à mes oreilles. Bref, nous avons une belle émission bien chargée pour vous, mais avec un très court tour de la table de l'actualité. On va parler de Microsoft. Que se passe-t-il en ce moment chez Microsoft? Ce sera un sujet business, puisque bah, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait d'ailleurs, de sujet business. Il s'est passé plein de choses chez Microsoft. Ça pue du cul, on va se le dire. Mais on en parlera en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, on parlera du second très gros jeu de la Switch 2, à savoir Donkey Kong Bonanza, puisque c'est sorti le 17 juillet, ça faisait partie un peu des jeux de l'été, ça fait partie des jeux qu'on a fini ou presque fini. Moi je l'ai fini, Mecton, je sais que t'étais pas très loin.
Presque.
T'as pas encore le trou last boss.
C'est ça, sans vouloir spoiler, j'en suis là.
Moi j'ai juste regardé les vidéos sur YouTube.
Il l'a fait sur YouTube.
Non, même pas, en fait, je veux juste regarder 2-3 vidéos, mais j'ai toujours pas la Switch 2, donc je n'y ai pas joué.
Voilà, donc ce sera...
Mais tu seras acheté avec la console, quoi qu'il arrive. Hein.
Tu serviras donc de pot de fleurs pour cette émission, au moins sur la seconde partie.
Exactement.
Mais nous allons commencer tout de suite par notre tour de table de l'actualité. Je te propose, Antix, de démarrer avec... Donc j'ai pas compris, donc je te re... De... Voilà, donc on va le refaire.
Alors,
Shadow
Drop
de Fire Emblem Shadows qui en fait est Among Us. Donc là,
ah,
maintenant t'expliques, je comprends pas.
Je crois que tu parlais de la vidéo du bébé Pixar avec des Pikmin cachés. Parce que ça
non.
Aussi, c'est un des autres trucs sur Nintendo.
Mais il va falloir qu'on en parle un petit peu aussi.
Alors, du coup, le 24 septembre, dans la nuit du 24 au 25, Nintendo a Shadow Drop, comme on dit maintenant sur internet, Fire Emblem Shadows. Donc qui n'est pas un Fire Emblem console mais une nouvelle application iOS qui est à la fois un auto-battler et Android, c'est vrai effectivement, qui est à la fois un auto-battler et un Among Us. Et si j'ai bien compris le concept de base, donc déjà on n'est pas sur un gacha, contrairement à Fire Emblem Heroes, donc le débloquer les personnages se fait autrement, et de ce que j'ai compris c'est plutôt des battle pass. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des espèces de passes qu'on achète et il faut remplir des jauges en jouant au jeu généralement pour pouvoir obtenir les bonus. Souvent le dernier et le plus long à obtenir, c'est genre un personnage ou un skin inédit. C'est typiquement le genre de truc qu'on a dans Fortnite. Et du coup, donc c'est un mélange d'Auto-Battler et de Among Us. L'idée, c'est qu'on est dans un monde, si j'ai bien compris le scénario, où il y a des versions Shadow de certains personnages. Donc il y a pas mal de personnages inédits qui ont été créés pour ce jeu. Et ouais. parce que c'est un gacha Fire Emblem sur mobile, enfin un jeu Fire Emblem sur mobile, on a fait revenir quelques stars, et je crois que de mémoire, Lynn et Dimitri sont les premiers personnages jouables.
Exactement.
Donc ils ont une version humaine et une version un petit peu furie, si on peut le dire, puisque quand ils deviennent Shadow, ils se transforment en animaux. Ah oui, et tous les personnages ont des oreilles de chat.
Putain, donc c'est Among Us, cross furry, cross Fire Emblem, cross auto-battler, mais on va pas y arriver, hein.
Oui, non, mais ouais. Le côté loup-garou, il est justifié par le scénario, et c'est pour ça qu'ils ont tous des gueules de... C'est des loups, du coup.
Voilà, ils ont bien compris quelle niche de public ils pouvaient avoir avec ce jeu, qui était prêt à filer de la thune. Parce que comme chacun sait, derrière tout développeur de haut niveau, un peu autiste, on a surtout un furry. Non, je déconne. Un furry un peu autiste. Voilà. Donc forcément, bah, ils sont allés chercher ces gens-là qui ont de la thune.
Nous attendons effectivement la règle 34 où il y aura la meuf de Fire Emblem, je sais plus quoi, avec des gros nénés et une queue de loup et tout ça. Ça va arriver.
Dans celle de Fire Emblem Engage ou de Fate?
Je sais pas, une des deux, on s'en fout.
Ouais. Et alors après, moi j'ai pas eu l'occasion du jeu, je crois que Mecton en a parlé.
Ouais,
ça a pas mal râlé sur le jeu parmi les failles de Fire Emblem quand ça a été annoncé. Et maintenant que les gens y ont un peu joué, apparemment, c'est des retours plutôt positifs.
Alors, c'est pas mal du tout. C'est alors le système de semi-temps réel auto-battler, en fait, tu peux le... En gros, les auto-attaques sont automatiques, les déplacements sont automatiques, mais tu as quand même la main sur des sorts que tu peux dropper sur des cases particulières. Et le truc, ça va être façon loup-garou, si tu es dans le camp de l'ombre, les autres ne le savent pas, ça va être de jouer de manière à ne pas te faire repérer. Et pour chaque bataille, en fait, se passe en deux phases. Donc, il y a une première phase où c'est les joueurs contre l'ordi. Et la deuxième phase, c'est le traître contre les deux autres. Parce que ça se joue systématiquement à trois. Et si les gens votent contre toi et qu'ils ont raison, ça leur donne des petites vies bonus, donc il les rend plus compliqués à tuer sur la deuxième phase. S'ils se vautrent, et ben, dans l'os, c'est toi qui auras un avantage sur la deuxième phase. Et tout ça est couplé à un petit scénario qui se débloque. Donc on fait des batailles, ça nous fait gagner des points, qui débloque un scénario de la lumière et un scénario de l'ombre. Et il y a une ambiance plutôt cool, une ambiance à la The Thing, Carpenter.
Ok. Bon, bah finalement, ça n'a pas l'air si mal que ça.
C'est vrai que c'est très inspiré. Faudrait que je le teste hein, quand même à l'occasion. Allez, moi, j'avoue que les designs de hommes et femmes chats, ça me batte pas du tout. Hein.
Tu n'aimes pas les furries, je ne comprends pas.
En fait, c'est juste un truc que je... Enfin, depuis Fire Emblem sur GameCube, on en a. A priori, sur GameCube, il y avait aussi un propos intéressant avec l'histoire du racisme et compagnie.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que depuis, ils en mettent systématiquement. Et bon, c'est un truc impensable de l'animation japonaise que j'ai du mal avec. Hein. Et j'avoue que ça m'éclate de moins en moins, ce genre de truc. Donc là, un jeu avec que ça, je suis genre... Est-ce que j'ai envie de l'ouvrir? Est-ce que j'ai envie de le lancer, même si c'est gratuit?
Après, si c'est gratuit, tu peux toujours essayer. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses pas ça dans le métro où les gens pourraient te voir, quoi.
Ça tombe bien, je vais au boulot en vélo. Mais voilà.
Donc, faut pas faire ça à vélo non plus.
Pourquoi je jouerais à un jeu quand il y a Hades 2 qui est disponible sur ma Switch? Je vous le demande.
C'est vrai que la question se pose. La question se pose. Mecton avec une nouvelle business que ouais, je qualifierais de incompréhensible.
C'est ça. Donc, j'ai appris fin d'après-midi, mais a priori les intéressés le savaient depuis la rentrée de début septembre. Quand je parle des intéressés, c'est les salariés de Game One et de G1. Donc ils vont tous être licenciés fin novembre parce que les deux chaînes vont s'arrêter. Car méfait du capitalisme devenu fou, la Paramount, actionnaire majoritaire de Game One, ça aussi je l'ai appris, fusionnant avec Skydance, ils ont décidé de faire des coupes dans la masse salariale et les gens de Game One et G1 font partie de la charrette. Alors que les deux chaînes sont bénéficiaires.
Alors, de pas grand chose hein, de ce qu'on a compris, mais en même temps, ça
a priori,
doit pas coûter grand chose à faire tourner.
2 ou 3 millions par an, voilà.
Donc voilà, oui, donc mais c'est, bon, pas, c'est pas fou, mais quand même.
C'est une chaîne française, quand t'es un gros conglomérat d'entertainment américain, tu t'en fous un peu, quoi.
Ouais, ouais, enfin bon, un truc qui rapporte, qui est dans un coin, qui te fait pas trop chier, excuse-moi, comptablement, ça te coûte pas grand-chose.
C'est vrai, on vit à une époque où Warner a arrêté, a empêché les films de sortir alors qu'ils étaient finis juste pour des raisons comptables. Hein.
C'est vrai qu'on vit quand même une époque formidable dans laquelle l'actionnaire a beaucoup, 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 beaucoup trop de pouvoir par rapport à ce qu'il devrait avoir. Ça, voilà, c'est hot take et j'en suis désolé, hein. Mais normalement, il devrait y avoir un équilibre entre les actionnaires, les créanciers, les salariés, les administrateurs, puisque les propriétaires de l'entreprise ne sont pas toujours ceux qui l'administrent. Tout ça devrait être, on va dire, un équilibre assez subtil pour que les choses fonctionnent. C'est exactement comme au cinéma, hein, quand vous avez des studios qui demandent des trucs complètement cons à un réalisateur qui a juste une vision créative. Si vous laissez le réal faire n'importe quoi, ça marche pas. Si vous laissez les studios prendre la main sur tout, ça marchera pas non plus. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ça. C'est ça qui fait la beauté du cinéma, la beauté d'une œuvre artistique de manière générale, c'est justement l'équilibre entre les gens qui financent et les gens qui font. Si on laisse les gens qui font faire n'importe quoi, ça ne marche pas. Si on laisse les financiers aux commandes, ça donne un truc insipide et absolument inintéressant. Il serait peut-être temps de reprendre un petit peu les bases de ce qu'Hollywood a fait depuis quelques années, qui est de dire, bon, faut quand même laisser un peu de créativité d'un côté, laisser un peu de liberté de l'autre, sinon on n'y arrive pas, quoi. Bref. Je trouve ça très triste. Alors, ça fait combien de salariés, du coup? On a une idée, c'est une trentaine, une quarantaine de salariés,
je sais pas, mais ben, c'est comme d'hab, t'as salariés, pigistes, t'as tous les intérimaires, intermittents.
T'as les indirects, voilà, c'est ça.
Voilà. Mais c'est 27 ans et plein de bons souvenirs qui partent à la benne sur une décision à la con.
Ah, la question. En plus, avec No Life, c'est un peu une des rares chaînes un peu culture geek, culture nerd qui est restée encore, qui ferme là.
Ouais. Oui. La vraie question étant, est-ce que les mecs vont tenter, comme l'ont fait certaines personnes de No Life, comme l'ont fait certaines personnes de Gamekult, de se lancer.
De rebondir,
de se lancer sur YouTube, de se lancer sur Twitch, de se lancer, parce que pourquoi pas, après tout, ils pourraient très bien emmener une petite audience avec eux s'ils le souhaitent, bien évidemment. Je conçois que ce soit un risque et qu'on peut pas se financer de la même manière et à la même échelle. Surtout si on veut se financer, correctement, c'est-à-dire pouvoir payer les pigistes correctement, pouvoir payer les techniciens correctement et ainsi de suite. C'est du boulot. Mais bon, ça s'est vu, il y a des gens qui ont réussi à faire des trucs qui sont pas exceptionnels mais qui marchent à peu près.
Alors attention, on parle du Game One d'aujourd'hui, je vois déjà arriver les gens, bon débarras tout ça. Oui, c'est plus le Game One de la belle époque. Le Game One de la belle époque, ça s'appelait No Life après. Mais quand même, merde.
On est OK là-dessus.
D'ailleurs, puisqu'on parlait des anciens de No Life, Alex Pilotz va faire un crowdfunding pour son projet de film qui s'appelle Demo, qui va parler de la Demoscene. Alors je ne sais plus de quel ordinateur. De quelle console?
J'aurais dit Commodore, moi, c'est en général
Amiga, quelque chose, oui.
Je pense que c'est l'Amiga. C'est un Amiga. Voilà, c'est juste pour le mentionner.
Et dans les paliers de ce crowdfunding, il y a plein de trucs rigolos pour les anciens qui ont connu No Life. Des gens qui viennent pour faire leur émission phare, façon making-of de ce film.
D'accord, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. On va enchaîner avec une petite nouvelle un peu fun fact, rigolo, c'est pas trop comment ça va se passer. Vous connaissez la ICE qui a été rendue célèbre par Donald Trump, c'est la Immigration and Custom Enforcement, donc grosso modo c'est la police de l'immigration américaine, qui a été, alors non seulement qui recrute à tour de bras depuis que Trump est président, mais qui en plus est déployée dans les grandes villes et qui fait un petit peu n'importe quoi. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire que
c'est une des campagnes de terreur. Une police secrète, genre le truc qui commençait par un G à une époque en Allemagne.
C'est un peu les chemises brunes.
Disons qu'il y a certains, il y en a, ils sont partis aux champignons, puis on les a pas revus, quoi. Donc c'est un peu, voilà, il y a des arrestations qui sont tout à fait arbitraires, il y a eu tout un tas de trucs assez triste pour une grande démocratie comme les États-Unis. Mais bref, c'est pas tout à fait là que je voulais en venir. Ils ont publié sur leur Instagram officiel une vidéo qui utilise la musique et le générique de Pokémon. C'était en mode, attrapez-les tous.
C'est craqué. C'est à vomir. C'est à vomir.
Mais non, mais même au second degré, ça marche pas, quoi. Tu vois, y a rien. Et on attendait tous, et c'est ça, moi, qui me défonce, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui ont dit, alors Nintendo, qu'est-ce que vous faites? D'habitude, dès que quelqu'un utilise vos IP, c'est parti. Il y a des procès dans tous les sens. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui peut se faire? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on attend toujours. Alors, je ne sais pas si Nintendo réagira. Il n'y a pas eu de réaction officielle jusqu'à présent.
Je crois que la Pokémon Company a dit qu'ils n'avaient jamais donné l'aval pour faire ça.
Ah bah, alors, ils se sont détachés du truc en disant « c'est pas nous ». Maintenant, est-ce que ça pourrait être considéré, parce qu'on est aux US, dans le droit à la parodie et à... le truc là qui fait qu'en termes de liberté d'expression, t'as quand même le droit d'aller recycler le truc, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à tenter.
Après, il y a une nuance, c'est que c'est l'État américain, quoi.
Alors, il y a une nuance, mais l'État américain... L'État de droit américain est pas en très bon état, mais l'État de droit existe quand même, c'est-à-dire que l'État américain est quand même soumis aux lois américaines, et on fait pas n'importe quoi, en théorie. Alors, est-ce que ça pourrait être du fair use? Peut-être. Voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était très étonnant de voir effectivement, entre guillemets, pas de réaction Nintendo. Alors finalement, il y en a eu une à un moment qui dit non, vous en avez, on n'a rien autorisé du tout. C'est genre plutôt, je veux me détacher du truc, mais on aurait pu attendre une réaction un peu plus virulente, tu vois, une menace de procès ou quelque chose comme ça, parce que c'est quand même des coutumiers du fait, donc c'est un peu. Je trouve ça un peu dommage.
Voilà. Je t'avoue que le procès Nintendo versus l'État américain, j'attends de voir. Hein.
Ah mais moi je suis.
En même temps, c'est un peu plus dur de gagner contre l'État américain que contre un mec qui téléchargeait Romain.
On est d'accord. Maintenant, ça aurait quand même été intéressant, tu vois. C'est pas David contre Goliath, mais on a quand même un truc à faire.
Bah, c'est aussi, je pense que ce genre de procès, ça se monte correctement parce que en face, t'as des mecs qui sont un petit peu vénères aussi.
Ouais, je pense que c'est le genre de truc où tu as peut-être plus intérêt à t'arranger à l'amiable que d'essayer d'aller jusqu'au procès.
Mais ça me ferait très plaisir que Nintendo fasse un procès à l'ICE.
ça me trigger un peu. Je sais même plus si. Voilà, est-ce que c'est le DOJ ou quelque chose comme ça? Oui, voilà. Elon, est-ce que tu veux pas racheter Nintendo tranquille, là, gros, qu'on soit débarrassé du problème. Bref. Donc, nous allons marquer une première petite pause musicale. On va écouter un petit morceau de la bande originale de Donkey Kong Bonanza. Je vous ai sélectionné le Lagoon Layer, qui est une des musiques qui fait beaucoup, mais alors beaucoup penser à Mario Odyssey. On y reviendra.
Ah bon?
Ça dure... Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment...
Je suis étonné qu'il y ait des rapprochements entre les deux...
Voilà, Lagoon Layer, ça dure 3 minutes 45, on n'a pas encore l'auteur, on sait que c'est la même équipe qui a fait Mario Odyssey, donc on suppose que c'est le même compositeur, mais on n'a pas encore les crédits qui nous permettent de l'affirmer, ça viendra probablement dans les mois qui viennent. Voilà, on se retrouve dans 3 minutes 45. Nous voilà de retour. Et donc nous allons parler de Microsoft, un petit sujet business, hein, puisque il s'est passé beaucoup de choses chez Microsoft et il y a eu une espèce de grosse étincelle la semaine dernière qui a vraiment mis le feu aux poudres, mais sérieusement, c'est-à-dire ça a commencé à vraiment faire mal à Microsoft, c'est l'augmentation de prix de 50% du Xbox Game Pass.
Sur Xbox.
Sur Xbox. Donc on rappelle le Game Pass.
Parce que sur PC, il a augmenté de 3€.
Voilà. On rappelle, le Xbox Game Pass, c'était un service dont nous avions déjà dit qu'il ne resterait pas à ce prix-là. C'était sûr et certain que Microsoft allait essayer de traire la vache jusqu'au bout. C'était sûr et certain. On était bien au courant. On l'avait dit à tout le monde, ça n'est pas possible. Ça ne durera pas. Je crois même qu'on avait utilisé le fameux triangle de... Le triangle de Mundell, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un prix Nobel d'économie. Qui a dit, voilà, tu as trois critères, tu ne peux en maximiser deux que si tu abandonnes complètement un troisième. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire tu avais les clients, les éditeurs et Microsoft, et en fait ça ne fonctionnait, c'est-à-dire que les éditeurs étaient prêts à mettre des jeux dans le Game Pass, et les clients étaient prêts à payer le Game Pass, que parce qu'en réalité Microsoft se saignait derrière, et pour payer les éditeurs, et pour faire un truc pas trop cher pour les joueurs. Donc c'était vraiment la stratégie du... la profondeur des poches, hein, j'ai envie de dire. C'était on arrose de pognon tout le monde en espérant que les gens ne se désinscriront pas quand le prix augmentera. Malheureusement perdu, ça n'a pas été le cas.
Ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs tous les deals avec les éditeurs, les développeurs indépendants et compagnie, c'est des choses qui étaient secrets, pendant un moment et qui ont été révélées, alors, de mémoire, par un autre événement qui nous intéressera par la suite, c'est-à-dire le rachat d'Activision. Je ne sais plus si c'est ça ou si c'est le procès de Epic contre Apple, mais bref, les prix ont été révélés en fait de combien ils payaient. Déjà, tu voyais qu'il y avait des grosses disparités en fonction des développeurs de la somme que Microsoft était prêt à donner.
C'est ça. Alors, pour résumer le système sur le Game Pass, parce que c'est quand même important, c'est en gros, tu as un éditeur qui considérait que, tu as Activision. Alors, Activision, c'est un très mauvais exemple, mais... éditeur quelconque, random, qui considérait que le jeu qu'il allait produire allait rapporter 1 million, va aller faire 1 million de ventes. L'estimation de l'éditeur, c'était de dire, on va faire 1 million de ventes. Microsoft disait, on aimerait bien l'avoir sur le Game Pass, et l'éditeur disait, oui, mais si vous le mettez sur le Game Pass, vous allez me bouffer des ventes. C'est-à-dire, je vais me vampiriser moi-même, il y a un certain nombre de ventes que je ne ferai pas. Et Microsoft répondait, très bien, nous sommes prêts à vous avancer 70% des ventes que vous espériez faire pour pouvoir le mettre sur le Game Pass. Donc en gros, t'espérais vendre 1 million de jeux, Microsoft t'achetait 700 000 jeux en avance, et puis à toi de te démerder pour vendre les 300 000 jeux restants finalement. C'était ça à peu près le deal. en gros. Donc ça veut dire que les éditeurs étaient très gagnants dans l'histoire, parce que finalement, s'ils estimaient qu'ils allaient en vendre 1 million, il n'y a absolument rien qui indiquait ça, mais globalement, Microsoft les croyait sur parole, alors je mets des très gros guillemets, je suppose qu'effectivement il y avait quand même des évaluations du côté de chez Microsoft, et une espèce de négociation en fonction des jeux, en fonction des éditeurs, en fonction des périodes. Voilà, mais en gros, le système était celui-là. Donc t'imagines, t'es éditeur, tu dis, bah, je suis certain que le prochain FIFA, il fera 3 millions de ventes, tu le veux sur le Game Pass, bah, tu me payes 70% des 3 millions de ventes, et il n'y a pas de problème. Ça pouvait pas durer longtemps. Hein. Je veux dire, à un moment, Microsoft n'a pas les poches infiniment profondes, et il s'est passé tout un tas d'autres événements avant, qui fait que finalement, encore une fois, ça n'est que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est pas vraiment le vase lui-même. On va y revenir. On va revenir sur deux trucs qui me paraissent importants, parce que c'est vraiment ça qui a été un peu le déclencheur. Alors déjà, il y a l'augmentation de prix des consoles Series X et Series S aux États-Unis. Je sais pas si c'est le cas en Europe. Je fais appel à votre mémoire.
Ah, tu me poses une colle, là, pour le coup.
Aucune idée.
Je suis désolé, je sais que ça a augmenté durant les 12 derniers mois. Alors, exactement comme Sony avait augmenté le prix de la PS5, si vous vous rappelez bien, on s'en était bien moqué. Microsoft a augmenté le prix des Xbox Series X et le prix des Xbox Series S. Tout ça, sachant que les Xbox Series se vendent visiblement pas très très bien en dehors du marché domestique américain. Ça a pas l'air de la folie en termes de vente, quoi. C'est-à-dire que la Xbox One, c'était pas fou, mais ça arrivait à se maintenir. Les Series X, Series S, visiblement, c'est pas au top. Donc il y a eu cette augmentation de prix.
Oui. La vraie stat, ce serait de savoir s'ils vendent plus de frigos que de consoles.
Putain, c'est vrai que le pire, c'est que c'est possible, quoi. Parce que franchement, c'est quand même très compliqué. L'augmentation de prix, alors encore une fois, Sony nous a fait deux fois l'augmentation de prix sur la PS5, si je me rappelle bien. Et une première et une seconde augmentation de prix.
Je crois que même plus si t'habites au Japon.
Wouah.
Les Japonais, les grands perdants en termes de prix, parce que la PS5 chez eux, elle coûte l'équivalent de 800 balles chez nous.
Putain, la vache, j'étais pas au courant que c'était si
élevé
que ça.
Au niveau de vie japonais, pour éviter les imports de consoles à 500 000 yens, qui du coup doivent valoir 300 € au prix actuel, Sony, ils ont fait monter le truc à 800 000 yens, ce qui correspond au niveau de vie japonais à 800 balles.
Putain, vache. Effectivement, j'étais pas au courant de ça, mais...
Je crois que là-bas, c'est pour la PS5 Pro, on dépasse l'équivalent 1 000 €, quoi. De mémoire. C'est vraiment très élevé, la PS5 Pro, là-bas, c'est abusif.
Ok. Et il y a eu un autre événement, c'était, je crois, juin dernier, juillet dernier, je sais plus exactement, qui est la sortie de la Rogue Ally X, qui était donc...
Elle est sortie ?
Alors, elle n'est pas sortie, elle a été annoncée. Alors, c'est pas la sortie, c'est l'annonce, hein. Si j'ai dit sortie, c'est un lapsus, excusez-moi. C'est-à-dire que, en fait, le Rogue Ally, c'était une espèce de Steam Deck, en gros, c'est un PC... portable, c'est une console portable, même si c'est pas une console, ça fait de ce que dit Cyrard, ça fait 1h30 de batterie, hein, donc c'est quand même un peu compliqué de parler de console portable dans ce genre de cas-là, mais en gros c'est un concurrent du Steam Deck, et la version suivante, la version X, était donc sponsorisée par Microsoft, c'est-à-dire qu'elle avait le label officiel « c'est une machine Xbox ». Alors, c'est pas la première machine Xbox, puisque Microsoft avait sorti le Xbox Game Pass pour télévision, pour frigo peut-être. Hein,
ouais, c'est possible.
C'est possible. Pour frigo connecté, mais en gros, ils avaient sorti des télés qui. Ils avaient toute une campagne aux États-Unis qui était This is an Xbox et qui montrait juste un téléphone ou juste un Steam Deck ou juste effectivement une télévision, etc. De dire bah, tout est une Xbox finalement, puisque vous jouez dans le nuage et puis vous vous préoccupez pas. Donc, le fait que ce soit par contre un constructeur de matériel qui sorte avec un label Xbox. Ça avait tiré une petite sonnette d'alarme chez pas mal de gens, c'est-à-dire de dire « Merde, est-ce que Microsoft serait pas en train d'abandonner le hardware et de déléguer ça, finalement, à des tiers, quoi ?» De dire à Rogue, de dire à Alienware, de dire à machin, bah, finalement, faites des machines qui sont faites pour faire tourner du Xbox Game Pass, point.
Alors, ce qui est un comportement, en fait, justement, je parlais de silence on joue, moi, quand on faisait la pause pour le suivi de cette histoire. Et en fait, c'est des choses, en fait, que beaucoup d'observateurs remarquent, c'est que Xbox ne parle plus de vente de consoles, mais de nombre d'abonnés Game Pass, mais plus en avant le Game Pass que ses consoles. et l'offre qu'il y a dedans. Et du coup, il y avait déjà, tu sens qu'il y avait déjà un petit peu ce move de leur côté, parce qu'ils voient que leurs consoles ont du mal à se vendre par rapport à Nintendo ou à Sony, de se dire, mais en fait, Microsoft, ils sont plus en train de vendre des consoles, ils sont en train de vendre un abonnement qu'est le Game Pass.
Ils te vendent un écosystème à travers cet abonnement.
Voilà, avec une console, la Xbox Series, S et X, mais la S se vend très mal, puisque c'est full des maths, et que du coup, bah, les revendeurs n'en veulent pas, puisque ça nique aussi la marché de l'occasion derrière. Des consoles qui se vendent mal, mais qui servent en fait de moyen d'avoir ton Xbox Game Pass sur ta télé, avec un prix plus abordable que de se payer un PC capable de faire tourner tous les jeux du moment.
Mais là le truc c'est la théorie, tu vois, c'est le sur le papier, c'est ce qu'on effectivement on imaginait là-dedans. Maintenant, l'augmentation de prix a fait aussi que tu as énormément de gens qui se sont désabonnés, disant bah oui, mais enfin t'es gentil, c'est un peu abusé. Tellement d'ailleurs qu'ils ont fait cracher la page.
Ouais, ils ont fait des abonnements.
Voilà, c'est la preuve qu'il y a eu du monde.
C'est la preuve que c'est pas un marché si élastique que ça. C'est-à-dire, en fait, les Microsoft a vraiment imaginé que de passer le Game Pass Ultimate de, je crois que c'est 20€ par mois à 30, enfin de 20$ par mois à 30$ par mois, que finalement la plupart des gens allaient absorber le choc sans se préoccuper, parce que à 30$ par mois, c'est peut-être encore une bonne affaire en vrai. Hein. Je ne juge pas la qualité du Xbox Game Pass. Hein.
Ça dépend comment tu joues, mais t'as quand même. Voilà, t'as les exclus Microsoft en Ultimate dès qu'ils sortent. Et je crois que t'as quand même pas mal de jeux dedans. Donc ça reste une offre intéressante. Franchement, pour le prix, ça reste une offre intéressante. Mais c'est vrai que quand t'es consommateur et que tu te prends plus 50% d'augmentation, bon, tu te dis, on s'en essaie pas d'avoir. Et je pense qu'ils payent aussi un peu cette. Mais ça, qui est un truc un peu global au marché du jeu vidéo, mais que du coup le Game Pass n'a pas arrangé, c'est de donner cette impression que le jeu vidéo, en réalité, c'est pas cher par rapport au prix que ça coûte actuellement. Et c'est pour ça que t'as des augmentations de jeux à 80 balles. Je dis pas que c'est une bonne chose que les jeux soient 80€, moi je trouve ça extrêmement cher. Mais en fait, une des raisons aussi pour lesquelles ça augmente, outre le fait que bah, on a quand même une industrie qui est beaucoup pilotée par des financiers malheureusement maintenant, et c'est le cas de Microsoft, c'est aussi que le prix du jeu vidéo était sous-évalué depuis des années.
Oui, il y a ça. Et d'ailleurs, à propos d'augmentation de prix, le prix de base des jeux sur Xbox Series, ceux qui sont vendus dans le commerce, est aussi passé cette année à 80$. 80€. On a eu cette augmentation de prix, on l'avait eu chez Sony, où finalement, au début de la vie de la PS5, les jeux de base étaient à 70€, hein, c'est le cas de Demon's Souls, il était sorti avec un MSRP, donc le prix recommandé à la vente par Sony, qui était à 70€, 70$, et maintenant c'est passé à 80. Et chez Microsoft aussi, on a fait ce passage à 80 durant l'année, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont finalement, ils jouent sur les deux bouts, c'est-à-dire que ils augmentaient le prix à 80 en te disant « Bah ouais, mais tu peux aussi prendre le Game Pass, c'est seulement 20€ par mois. » Donc effectivement, si t'achètes plus d'un jeu par mois, c'est peut-être plus intéressant, surtout que t'auras nos exclus, nos machins, nos trucs. Donc tu le rembourses, tu le rentabilises assez vite, en fait. Et là, maintenant, c'est 30€ par mois, tu le rentabilises un peu moins vite, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ils ont joué sur cette corde-là pour essayer de vendre des abonnements Game Pass en disant « Bah, le prix des jeux augmente, entre guillemets, on est désolé, l'inflation, vous rendez compte ?» Tous ces disques qui sont fabriqués en Ukraine, je veux dire, c'est insupportable.
On parle des disques de Doom Dark Ages ou pas?
Alors, faudra qu'on en parle à un moment, mais on va pas faire ça maintenant. Faudra peut-être faire un sujet dédié sur ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à
dire. Parce que Doom Dark Ages, 80 balles,
il n'y a rien sur le disque.
Globalement, une clé de téléchargement, hein. Donc autant le prendre en démat.
C'est une game keycard.
C'était ça, sauf que au moins la game keycard, l'arnaque, elle était annoncée.
Ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment tout à fait déloyal. Bref, on a en fait une espèce de... Alors, on va parler de l'éléphant dans la pièce juste après, hein, on arrive. Il y a un autre
lequel
truc...
Lequel Celui à 60 milliards ou...
Alors, il y en a deux ou trois des éléphants dans la pièce, hein, mais... on a aussi... Alors, j'ai vu aussi beaucoup de joueurs qui se plaignaient du fait que, à l'instant même où ils avaient arrêté leur abonnement Xbox Game Pass, quand ils allumaient leur Xbox, ils se retrouvaient avec de la pub pour tout un tas de trucs. C'est-à-dire leur page d'accueil se retrouvait envahie de pubs. De pubs, alors pour le Xbox Game Pass, donc genre revenez, et pour tout un tas de trucs qui n'avaient rien à voir, genre le dernier service de streaming de Microsoft, le machin. Enfin, c'était devenu... Est-ce que c'est encore ta console ou est-ce que c'est juste une vitrine de Microsoft? La question se posait.
C'est déjà un problème que moi je trouvais qu'il y avait sur la fin de la Xbox 360 et qu'il y a aussi sur Windows 11, c'est que tu payes pour un truc et t'as de la pub en plus, quoi.
Bah, c'est-à-dire que finalement, c'est compliqué.
D'une certaine manière, Microsoft, ça fait depuis quoi, 2014, que c'est un peu un canard sans tête. Ils savent pas. Ils tentent des trucs, mais ça marche pas très bien.
Bah, je pense, moi, que ça date de à peu près 1982, la fondation.
Alors,
75, Microsoft.
Vu l'hégémonie de Windows, c'est compliqué de dire ils tentent des trucs, ça marche pas. Hein.
Le bol.
Écoute, il y a un moment, tu tires sur la corde, le truc est toujours le même, hein. On en a déjà parlé, mais quand tu crois que t'es invincible, tu crois que tu peux faire absolument n'importe quoi, il y a un moment où tu finis par tirer tellement fort que ça va pas. Regardez la PS3. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même eu pendant un moment des gens qui ont dit, est-ce que Sony va vraiment continuer à fabriquer des consoles, parce que là c'est une catastrophe.
Ouais, y a aussi,
vraiment cru qu'ils allaient pouvoir faire ça.
Il y avait aussi Yamauchi la 64. Hein,
exactement là.
On peut parler Square Enix. C'était un peu ça aussi. Enfin, Squaresoft, pardon.
C'est ça. Mais c'est encore une fois, tout le monde, toutes les très grosses entreprises comme ça se croient invincibles jusqu'au moment où ça commence à faire très mal. Je ne dis pas que... mais exactement comme une bulle, exactement comme ce genre de choses-là, ça peut s'écrouler très très vite. Hein. Ne négligeons jamais la vitesse à laquelle les investisseurs peuvent paniquer quand il se passe quelque chose et commencer à vraiment tailler une action ou tailler un groupe en se disant vaut mieux le couper au détail et puis le vendre en morceaux plutôt que de maintenir le bateau à flot. Ça peut arriver très vite. Bref, on a en fait bon, l'éléphant dans la pièce, il est là. Hein. Depuis ces 18 derniers mois, Microsoft a viré énormément de monde et a fermé énormément de studios.
Dont des studios qu'ils viennent de racheter, hein.
Tout à fait. Pour une entreprise qui a racheté Activision, avec la bénédiction de l'État américain, ce qui est quand même, encore une fois, très très discutable.
Et avait promis d'ailleurs de ne virer personne après le rachat.
Ouais, alors ils ont viré personne de chez Activision.
Alors si, justement.
Merci. Oh merde. Les mecs se sont fait niquer.
Si. Toutes les fonctions support en double, ça dégage.
Putain, bon, ça, malheureusement, dans une fusion... Enfin, une fusion, c'est quelque chose de très déflationniste, de toute façon, hein, donc voilà, mais...
Non, bah, ça
c'était combien, tu disais? C'était 28 000 personnes, c'est ça? Au total, hein,
depuis,
tout Microsoft.
Depuis 18 mois, 28 000 personnes ont été licenciées de chez Microsoft. Donc pas juste Xbox, Microsoft, toute branche confondue, tout pays confondu. Alors, on peut peut-être parler d'une des raisons aussi, en tout cas côté Microsoft de manière générale, il y a un changement de direction. La directrice actuelle, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers la finance et donc la rentabilité. Microsoft investit énormément dans OpenAI, ça lui coûte très cher, et globalement, ils ont viré des gens pour pouvoir investir dans l'IA. Ce qui donnait des trucs lunaires du style, un représentant de Microsoft qui conseillait aux personnes qui se sont fait virer d'utiliser l'IA pour faire leur CV, afin de retrouver du boulot plus rapidement. Voilà.
Des bons conseils qu'on peut donner dans des mails de licenciement.
D'après Microsoft, à présent, 30% de leur code est fait par de l'IA. Donc je vous dis pas la gueule des prochains Windows. Hein.
Ouais, ça mettait pas trop à jour Windows 11.
Ben, n'utilisez pas Windows 11, soyez intelligent.
Oui, de manière. Ils ont arrêté Windows 10, donc faudra passer sur Linux.
Bah, allez-y, hein, essayez. Vous verrez bien. Vous allez peut-être apprécier de pas avoir de pub partout. bref. Mais on a ce problème-là, et on rappelle aussi, parce que c'est très important, que ce que tu disais, c'est une financière, donc effectivement c'est quelqu'un qui est attaché au fait que finalement chaque division de Microsoft, puisque Microsoft est une entreprise qui est suffisamment grosse pour avoir des divisions, des pôles d'activité qui sont vraiment très diversifiés, parce que vous avez à la fois les activités de cloud avec Azure, les activités de software avec Office, avec Windows, avec tout un tas de trucs, et finalement la division Xbox, à la tête de laquelle est Phil Spencer, hein, c'est une division qui rapporte pas tant que ça. Alors je rappelle que la petite aventure Xbox, la toute première Xbox, hein, celle de 2001, ça avait quand même coûté à Microsoft la bagatelle de 4 milliards de dollars. De pertes. De pertes sèches. Microsoft, à l'époque, Bill Gates et l'ancien patron, là, le taré, comment il s'appelle? Putain, j'ai plus son nom.
Spencer?
Non, le gars qui était...
Ballmer.
Complètement taré, en fait, partait du principe que l'idée, c'était d'installer une marque et l'idée c'était d'imposer la Xbox dans les salons, donc c'était pas grave si ça coûtait du pognon. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, Microsoft pouvait se permettre de faire des trucs un peu fous, de vendre une console à perte, d'investir dans des studios de jeux, de faire tout un tas de trucs, et finalement, ça a un peu perduré comme habitude, puisque la Xbox 360 a été tout juste rentable. La Xbox One, ça a vraiment pas été un bon plan, et comme on l'a dit, la Xbox Series, ça marche pas tant que ça, et le Game Pass, ça leur faisait un petit matelas confortable, mais je pense que le seuil de rentabilité dans la division Xbox était toujours pas là.
Ouais, je pense qu'en plus, il y a eu beaucoup d'investissements, hein. On parlait du rachat d'Activision, mais ils ont aussi racheté ZeniMax, donc Bethesda,
oui.
Avec pas mal de studios aussi, ils ont créé... ils ont racheté quelques studios indépendants, notamment celui de Tim Schafer, donc le créateur de Grim Fandango. Et donc ça fait quand même pas mal d'investissements, probablement pour le Game Pass, pour le prestige et avoir des jeux, qui n'arrivent pas à être rentables puisque les consoles se vendent mal, les jeux ne se vendent pas si bien, Starfield apparemment n'est pas le gros succès attendu, surtout pour le nouveau jeu des mecs de Skyrim, qui reste un énorme succès des années 2010. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de déceptions, et il y a des énormes investissements derrière, donc je pense qu'ils veulent rentabiliser tout ça.
Bref, donc ça va pas bien du tout chez Microsoft, la question étant, est-ce que finalement, il est possible, probable, à votre avis, hein, encore une fois, on va jouer un peu à Madame Irma, est-ce que Microsoft pourrait, par exemple, vendre sa division Xbox à Electronic Arts? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec Microsoft qui décide de donner son indépendance à la division Xbox en mode démerdez-vous, quoi.
Est-ce qu'il y a des scénarios qui vous paraissent probables? Tu veux la réponse pour Electronic Arts?
Oui, je sais, ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Electronic Arts est très très mal parti. Hein. On pourrait assister à la fin d'Electronic Arts.
Alors, ironie de l'histoire, Microsoft voulait racheter Nintendo au début des années 2000. Hot take, Nintendo va racheter la branche Xbox.
Alors voilà, on a un premier pari, et là moi je suis Nintendo rachète la division Xbox, pourquoi pas.
Alors est-ce que c'est seulement rachetable la division Xbox, parce que du coup ça comprend Activision Blizzard, qui a quand même été racheté, alors je sais plus combien, mais la somme était assez énorme.
55 milliards.
Voilà, un truc que seul Microsoft dans le monde du jeu vidéo peut se permettre, je sais même pas si Nintendo ou Sony ont les thunes pour.
Oui, mais maintenant ça s'est déprécié.
Probablement. Y a moins de trucs, hein, vu qu'ils ont fermé des studios, parce que on les vanne un peu sur le fait qu'ils sont un peu dans la merde. Il y a quand même eu des effets de bord derrière, donc on a eu tous les salariés virés. On a des studios qui ont fermé, des très bons studios comme Tango Games Workshop qui avait fait, je crois qu'ils l'ont fermé genre soit quelques jours avant, soit quelques jours après que leur dernier jeu, qui était une très bonne surprise, un jeu d'action de rythmique, a eu des très bons prix au Game Awards. Ils ont fermé le studio peu de temps après, et après on dit franchement, nous Microsoft on supporte les petits projets indépendants originaux. Et t'es vraiment là, mais genre mec, vous venez de fermer un studio qui vient d'en faire un, quoi.
Merde, c'était à nous ça, putain.
Attends, oui. on revient au même truc de tout à l'heure, hein, qui était rentable, qui a été un succès critique, qui a été un succès commercial, et on pouvait tout à fait envisager une suite et tout ça. Les mecs étaient pas chiants en plus, hein, tu vois, c'est pas genre on a viré les emmerdeurs, ça.
Donc c'est ça, ils ont viré des gens chez Rare, évidemment, ils ont fermé Arkane Austin, donc qui est le pendant américain de Arkane, le studio français, donc qui lui avait fait un très mauvais jeu qui était Redfall, mais qui avait fait aussi Prey, qui est un jeu très, très apprécié, même si pas très bien vendu. Et dernièrement, ils avaient annoncé un nouveau Perfect Dark, en mode c'est le premier quadruple A du jeu vidéo. C'est du bullshit évidemment, mais du coup il y avait un studio derrière ça qui s'appelait The Initiative, qui était censé s'occuper de tout ça. Le studio a été fermé au début de l'été avec les 9000 et quelques licenciements qu'il y a eu chez Microsoft à ce moment là donc non seulement en fait ils ont dépensé plein de pognon pour acheter des gens, mais en plus ils ont fermé des studios qui du coup seraient peut-être mieux sortis en restant indépendants, avec peut-être un peu moins de moyens, mais au moins ils seraient peut-être encore ouverts. Et du coup je pense que pour les studios chez Microsoft et les développeurs, ils sont un peu en mode genre bon, c'est qui les suivants sur la liste, quoi.
Oui, t'as l'impression qu'eux, ils cochent pas des cases, ils enlèvent des lignes. Sur un fichier Excel, parce que c'est Microsoft, mais... voilà. Ça va quand même être très compliqué. Hein.
Un fichier Excel qui a planté à cause de Windows.
Tu nous as pas dit une petite prédiction, là. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Est-ce que tu penses que ça va s'arrêter? Est-ce que tu penses qu'ils vont vendre? Est-ce que tu penses qu'ils vont fermer? Est-ce que tu penses qu'ils vont cesser toute activité? Est-ce qu'ils vont donner leur indépendance à Activision? Parce que finalement, ça pourrait se faire aussi.
Je vois le loup dans le buisson, moi. Apple qui rachète la branche Xbox.
Oh. Ah oui, c'est pas improbable, hein, en vrai. Hein. Pourquoi pas,
Je t'ai pas donné ma meilleure tech.
Ah ouais, vas-y.
Bobby Kotick, patron de la branche Xbox.
Oh, non, oh mon dieu. Non, mais putain. laisser cette raclure de bidet là où elle est, quoi.
Non, je t'annonce, c'est le pire scénario possible.
Alors moi, je t'annonce... Non, alors moi, je peux vous annoncer le pire scénario possible. Le pire scénario possible. Sébastien Lecornu, président de la division Xbox.
Ça va pas durer longtemps, d'après moi.
Normalement, 836 minutes, c'est son record, hein.
A priori, après 800 minutes après qu'il soit devenu patron, Microsoft devient éditeur tiers, comme Sega à l'époque.
C'est vrai, alors, on rigole, hein, mais ça pourrait faire partie des hypothèses, hein, de dire finalement Microsoft abandonne le hardware, et parce qu'un des trucs de Microsoft ces dernières années, en tout cas un des trucs de Phil Spencer, c'était de dire Xbox doit être une marque, Xbox doit être partout, on veut devenir, entre guillemets, un concurrent de Steam, on veut devenir le Steam, mais qui est disponible pas que sur PC. Ça fait partie des possibilités, hein, qu'à un moment il y ait une réorientation stratégique et que Microsoft devienne un éditeur tiers qui est disponible absolument partout.
Déjà en cours, hein, d'ailleurs, quand tu regardes.
Oui,
on a eu quelques jeux exclus sur Switch, alors longtemps après, mais Cuphead, Horrible The Blind Forest. Starfield, alors, doit sortir ou est sorti sur PS5. Gears of War, la grosse exclu Xbox 360 de l'époque, est sorti sur une console PlayStation. C'est très, très étrange de voir une boîte PlayStation avec marqué Gears of War sur une boîte PlayStation, je dois dire. Parce que c'est un peu le jeu emblématique de la Xbox 360. Donc en fait, ils commencent déjà à faire ça. Parce que probablement, ils ont besoin de la thune, quoi.
Mais est-ce que c'est le move, quoi, tu vois? Est-ce que c'est vraiment le move général? Est-ce qu'à un moment, ils vont se dire, allez, on arrête. On nous propose François Bayrou comme président de la division Xbox.
Oh non, non,
je suis obligé de refuser. Hein,
Il va aller tabasser les enfants des développeurs.
Il n'aura pas la confiance des actionnaires, il sera obligé de démissionner.
Voilà. En plus, on va découvrir qu'il a fait un scandale, je sais pas moi. Dans la dernière vidéo Nintendo, il a caché la violence sur le gamin.
Ouais, mais déconné, il avait attaqué. Il avait attaqué les directs.
Non, s'il vous plaît, on peut arrêter là. C'est pas possible. Stop. Bon.
Bah, Microsoft, tiens, en vrai, c'est presque. Ça se dirige vers ça. Hein. Et puis bon, ça, mine de rien, pas trop mal réussi à Sega. parce qu'ils sont encore là, contrairement à beaucoup d'éditeurs de l'époque où ils étaient constructeurs, ils sont encore vivants.
C'est vrai que globalement, Sega, ça leur a. Le move a été compliqué. A été très très compliqué. Pour eux, hein, je veux dire, je suppose que même en interne, ça a été compliqué. Quand tu regardes la qualité des jeux qui sont sortis chez Sega dans les années 2000, c'était quand même très, très, très compliqué. Il y avait une petite partie de la production de la production et de l'édition de Sega qui était très dans la ligne droite de ce qui avait été fait pour la Dreamcast. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Avec le recul, on se rend compte qu'effectivement, il y avait quand même des choses bien, des choses moins bien, évidemment. Mais au final, aujourd'hui, effectivement, c'est quand même plutôt un éditeur qui tient la route. Alors, on sait pas trop comment, parce que finalement, ils possèdent toujours beaucoup de salles d'arcade, je pense que ça rapporte. Il y a Yakuza qui rapporte pas mal, mais...
Ah, c'est Sega Sammy, donc de mémoire, Sammy, ils sont plus dans les pachinko. Si mes souvenirs sont bons, faudrait vérifier. Et puis, en vrai, ils ont aussi une base de fans assez fidèles, mine de rien, puisque les fans de la Mega Drive, ils ont 30-40 ans maintenant, et tu vois que les gros succès, en tout cas les bons jeux, sont édités par Sega en ce moment... C'est des rééditions de jeux populaires à l'époque. Oui. On a eu un Shinobi il n'y a pas longtemps, Street of Rage 4, pardon, putain, je vais y arriver.
C'est là où je me pose la question de est-ce que c'est possible pour Microsoft, parce que certes, ils ont un petit back catalogue aussi, il y a quand même quelques... Maintenant qu'ils ont acheté Activision, Bethesda, tout ça, ils ont quand même Doom, ils ont quand même tout un tas de trucs historiques très 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 importants pour l'ensemble du jeu vidéo. Est-ce que passer entière et s'appuyer... Enfin, avoir une partie de leur stratégie, comme le fait Sega, qui consiste à revendre le catalogue de la Mega Drive tous les ans dans une nouvelle compile... un peu comme avait fait Rare Replay finalement, hein, on pourrait considérer que... T'imagines que Rare Replay ressorte à peu près tous les ans. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, peut-être pas si évident que ça.
Les jeux historiques Microsoft, bof. Parce que finalement, Halo, Gears of War, c'est plus vraiment des jeux qui intéressent les gens. Par contre, quand tu as l'éditeur de Call of Duty, bah en fait, ça reste un bon move, quoi. Parce que Call of Duty, ça vend toujours. Ah, et puis après, t'as quelques titres un peu à succès, type les titres d'Arkane, Dishonored, qui sont pas si mal, tu vois.
Ouais. Donc peut-être qu'effectivement c'est le move et qu'on l'a vu un peu avant tout le monde, ou que les gens ont soupçonné avant tout le monde, hein, le coup de la Rogue Ally X, que effectivement Microsoft dit « Hey, c'est une Xbox ». On verra bien ce que ça donnera.
Je pense qu'ils vont surtout vouloir continuer à essayer de faire fonctionner leur écosystème Xbox avec le Game Pass. Et sortir du jeu entier sur console annexe, histoire d'avoir de la présence. Mais Moi, honnêtement, l'avenir de Microsoft dans le jeu vidéo, j'arrive pas à les voir comme un acteur majeur actuellement, quoi. Les acteurs majeurs, c'est Steam, c'est Epic, c'est Sony, c'est Nintendo pour moi.
C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Je vous propose de marquer une seconde pause musicale. On va écouter un petit morceau qui fera plaisir à tout le monde. Il s'agit de Rambi Rumble, toujours issu de la bande originale de Donkey Kong Bananza. Et on se retrouve tout de suite après pour parler du dit Donkey Kong Bananza. Ça dure 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. On va y arriver. Bref, donc Donkey Kong Bananza. Alors on a parlé de Mario Kart World. Ça va pas du tout. On a parlé de Mario Kart World il y a 2 semaines. Oui, c'est
ouais.
Ça.
Voilà, ouais.
On va y arriver. On a parlé de Mario Kart. Je parle d'image d'antique, je suis désolé, c'est un truc qui s'est passé en off. Je suis d'accord, c'est pas possible. On en reparlera, on en discutera. Bref, le second gros jeu de la Switch 2, il est sorti le 17 juillet de cette année, c'était Donkey Kong Bananza, qui est finalement le premier Donkey Kong en 3D depuis Donkey Kong 64. Donc ça fait quand même pas loin de 30 piges.
Tant que ça!
Bah écoute, Donkey Kong 64, ça doit être 98 ou 99, donc ça fait 25 ans, hein, mais...
c'est voilà, pas 2000... C'est... Ah oui, non, c'est, de... oui, c'est 99, je crois.
Ça doit être 99. Alors peut-être 2000, hein, peut-être tout début 2000 en Europe, ce serait pas choquant. Parce que ça faisait partie des derniers jeux de la N64, hein, on était vraiment sur sa dernière jambe. Donc on n'avait pas eu de Donkey Kong en 3D, et là on a un Donkey Kong en 3D, mais qui est fait par les créateurs de Mario Odyssey... On va dire que ça se voit un petit peu.
De Jungle Beat surtout.
De Jungle Beat. What?
C'est les mêmes. C'est EAD Tokyo.
Putain, donc c'est la même équipe qui a fait Jungle Beat. Oh. Merde, enfin,
la même équipe, le même studio. Mais
le même studio.
La même équipe probablement qui a quelques membres en commun.
On va dire que il y a une petite probabilité parce qu'il y a 2-3 filiations un peu intéressantes. On a finalement un principe de base un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a un jeu en 3D d'exploration assez ouvert, dans lequel faut récolter plein de trucs. Façon Mario Odyssey, là on a 500 bananes à ramasser dans tout le jeu. Alors, on se rend pas compte, mais grosso modo 16 très grands mondes, avec à chaque fois 3-4 petits niveaux.
Pas forcément, mais...
Oui, parce que t'en as des plus courts, t'en as des plus longs, mais voilà, ouais. On va essayer de pas trop spoiler sur ce sujet-là.
Un peu comme Mario Odyssey, où t'avais des gros niveaux, type le désert, la forêt, et entre-temps, t'avais des petits niveaux, genre le lac, et le truc de neige.
Exactement, tu as... Alors en fait, c'est un système dans lequel on descend. C'est aussi une structure de jeu qui est extrêmement linéaire, puisque finalement, l'idée, c'est que le scénario te dit, faut descendre jusqu'au cœur de la planète, donc les singes, donc et qu'on compris, sont tous des mineurs, on sait pas pourquoi. Ils récoltent du banandium, qui est donc un minerai de banane. Parce que pourquoi
ouais,
pas.
Normal.
Non mais normal. C'est donc quand tout est logique, tout se tient, tout est cohérent. Il y a pas de
banane radioactive, oui, ça se tient.
Ça se tient. Oui non mais d'ailleurs ils ont peut-être sniffé un peu trop de potassium, hein, parce qu'il y a 2-3 passages où c'est compliqué quand même. Hein. Bref, donc tu descends en fait de plus en plus profond et effectivement la structure ressemble à celle de Mario Odyssey, c'est-à-dire où tu sautes sur la planète d'un point à un autre de manière un peu linéaire, c'est-à-dire après le désert, t'as la cuisine, t'as le machin, t'as le truc. Là, tu descends de strate en strate, et chaque strate a ses petites particularités, sa faune, sa flore, son ambiance, sa musique, ses petites mécaniques de jeu à elle, et ainsi de suite. Voilà, donc on a, et à chaque fois on récolte, alors, dans Mario Odyssey, on récoltait pas des shines, on récoltait des étoiles.
Des lunes.
Des lunes. Oui, pas des étoiles, putain. Des lunes, là, on récupère des bananes.
Et là, c'est des lunes aussi, du coup.
Mais c'est des lunes aussi. Ah bah oui. Merde, les mecs ont osé faire ça. Voilà, on a, encore une fois, une... Je crois que, un peu comme dans Mario Odyssey, où il y a un moment, il y avait une branche, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir d'aller à un endroit ou à un autre, mais en fait, tu finissais toujours par faire les deux. Là, t'as exactement la même chose.
Ah, je me rappelle pas, s'il y avait ça, ok.
Bref, on a aussi des costumes qu'on peut acheter, qu'on peut échanger contre des fossiles. Donc les fossiles, c'est le deuxième gros collectif du jeu, c'est les trucs que tu vas trouver en observant un peu dans le décor. Chaque strate va avoir ses propres fossiles.
Mais des guillemets à observer. Hein.
Oui, oui. Et effectivement, il faut quand même être aveugle pour pas tomber dessus.
Il y en a des planqués, remarque. Ouais.
T'en as où faut que tu récupères une carte qui va te dire où elle est.
Ouais, oui.
T'as quand même, quand tu creuses un peu au hasard, on va y revenir, hein, mais tu vas tomber de temps en temps sur... Merci beaucoup.
De rien.
Tu vas tomber de temps en temps, effectivement, sur des coffres au trésor qui vont te donner l'emplacement d'une banane ou d'un fossile ou d'un truc comme ça. Donc il y en a que tu peux trouver au hasard, il y en a d'ailleurs beaucoup qu'on trouve juste en cherchant, ou juste en se disant « tiens, là, c'est bizarre ». Et puis ben, y en a d'autres où effectivement on va te filer une carte au trésor qui va te permettre de le trouver. Tout bêtement. Donc voilà, d'un point de vue structure, c'est assez simple. Alors, la première très 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 grosse nouveauté. Alors, je disais, donc t'as même le retour des costumes, comme dans Mario Odyssey. Mmh. Tu peux changer de fringue et ça te donne des petites capas spéciales.
C'est ça. Dans Mario Odyssey, je me rappelle pas si te modifiait un petit peu tes.
Alors, je crois que ça modifiait pas tes stats. Pas. Hein.
Non, c'était juste de la déco et on
pouvait. Ouais, c'était juste déco et. J'en avais certaines, ça te permettait d'accéder à des zones où t'avais une lune. C'est tout.
C'est ça. Là, ça te donne des petites capas. Typiquement, tu as... Alors, Donkey Kong, il a trois trucs. Alors, je crois que la fourrure, la coloration de la fourrure...
La fourrure est pure cosmétique.
C'est pure cosmétique. Par contre, tu as un froc que tu peux changer qui va te donner des capacités généralement plutôt défensives. C'est-à-dire, tu vas mieux résister à la lave, tu vas mieux résister à la glace, etc., etc. Et tu as une cravate qui te donne en général des trucs un peu plus offensifs. Typiquement, tu vas regagner 3 points de vie par seconde quand tu es transformé d'une certaine manière ou quand tu vis un certain nombre de trucs. Et pareil, yes. Tu vas avoir pour Pauline, qui est donc ton compagnon pendant toute l'aventure, tu vas avoir aussi un costume pour elle qui, pareil, va lui donner des petites capacités. Elle va chanter, ça va faire un truc plus long, plus court, elle va avoir une plus grande portée, enfin bref. Voilà, ça fait des petits modificateurs. C'est des trucs très à la marge, hein. On peut faire absolument tout le jeu en ayant le froc de base, la cravate de base et la Pauline de base. Alors, il y a certains trucs où ça aide un peu, hein, de temps en temps, d'acheter un costume qui te permet de nager un peu mieux sous l'eau, tu vois, ce genre de conneries-là.
Marcher un peu plus vite. Allez,
oui. Voilà. Encore une fois, regagner de la vie quand t'es transformé, c'est le genre de truc qui est assez utile parce que, mine de rien, les... On va dire les... dernières strates sont quand même
un peu
vénères en termes de difficulté. Mais voilà. Mais donc voilà, la très très grosse nouveauté, c'est le géomode.
Oui, voilà. Et là, c'est la grosse éclate. Donc c'est pour ça que je te disais, observer. Pour moi, il y a énormément de fossiles où ça a été... Ce truc-là n'a rien à faire ici, vas-y, je le défonce. Oh, ça fait un gros trou, ok, je continue là où ça m'encourage de creuser. Boum, fossile.
Ouais, t'as énormément de trucs où t'es effectivement guidé par le fait d'aller creuser dans la roche. Donc pour expliquer au niveau gameplay, hein, c'est assez con, t'as trois touches sur la manette qui te permettent de donner des coups. Donc t'as B qui est la touche du bas, donc tu donnes un coup vers le bas, Y tu donnes un coup vers l'avant, et X tu donnes un coup vers le haut. Et en fait tout ça te permet d'aller creuser, détruire à peu près n'importe quel morceau de décor, à une exception près, tu ne peux rien casser qui soit métallique.
Qui soit le squelette du niveau.
Exactement. Et du coup, tu te retrouves effectivement avec un squelette de niveau. Alors, je le rappelle, je crois que c'est Digital Foundry qui avait fait le test en mode est-ce qu'on peut vraiment absolument tout casser ? Les mecs ont absolument ratissé la map.
Oui.
Et alors, la plus petite, mais quand même.
J'ai un collègue qui a un peu pété du casque, hein, mais il se refuse à passer à une strate inférieure tant qu'il n'a pas détruit le niveau.
Ça, c'est une dédication à son travail assez incroyable.
C'est ça, il y a une capacité d'abnégation extraordinaire. Hein.
Mais du coup, si tu veux, il y a les bananes, c'est qui sont liées aux stats, il est tombé dessus par hasard. Quoi.
Ah bah oui, puisqu'effectivement, quand tu vas aller avoir détruit un certain nombre de mètres cubes d'une
de
certaine manière
matériaux.
Dans une certaine strate, tu as des bananes bonus qui peuvent tomber. Mm. Alors c'est pas si difficile que ça à voir d'ailleurs, il n'y a vraiment pas besoin de détruire tout le niveau, hein. Je le précise pour les gens qui se posent la question. On n'a vraiment pas besoin de les détruire. Par contre, effectivement, si tu détruis absolument tout dans une certaine strate, il y a moyen que tu débloques très vite toutes ces bananes-là.
Hein. Ah bah, le jeu, si tu veux, il le trouve facile. Hein. Il peut monter ses capacités assez rapidement avec ses conneries. Oh,
sans déconner. Sans déconner, vraiment, quel enfer, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut préciser, c'est une très bonne transition.
Transition.
C'est que, contrairement aux lunes qui... Alors, les lunes ne servaient qu'à booster les capacités de l'Odyssée.
Accéder aller de au plus niveau en plus d'après. Ouais.
En gros, voilà, c'était une espèce de clé pour accéder au niveau d'après. Façon... on est presque revenu à façon Mario 64, quoi. La porte dit « Ah ah ah, tu ne pourras pas passer tant que tu n'auras pas 15 étoiles. » Donc là, c'était « Tu ne pourras pas aller au niveau suivant tant que tu n'auras pas collecté au moins 50 lunes à cet endroit-là. » Sachant que, généralement, toutes les lunes étaient à peu près sur ton chemin. Là, c'est un petit peu différent, puisque les bananes te permettent d'aller augmenter les capacités de Donkey Kong. Donc typiquement, tu peux aller augmenter tes points de vie de base, tu peux aller augmenter le rayon d'action de ton sonar. Oui, t'as un sonar. Ça va être compliqué.
Vous savez pas que les gorilles peuvent utiliser le sonar pour se repérer dans la jungle?
Mais c'est exactement ce qui se passe, hein, je veux dire.
En tout cas, selon le professeur Nintendo, c'est possible.
Selon Dr Mario, diplômé de l'université de Nintendo.
Ah, attends, on en est, la Terre est creuse, les singes ont un sonar.
La Terre est creuse et cylindrique est creuse.
Ok.
Oui. Et effectivement, la Terre, telle qu'elle est représentée dans Dicket, tu remarqueras qu'elle est jamais ronde. On te présente une coupe transversale de la Terre, ça pourrait très bien être un cylindre.
Est-ce que c'est pas ça le plot twist de Donkey Kong, qu'en fait ça se passe dans le monde d'Animal Crossing?
J'en peux plus. Est-ce qu'on peut essayer de faire la timeline de Donkey Kong en intégrant la timeline d'Animal Crossing dedans?
Ça dépend, est-ce que tu l'intègres à la timeline Mario?
Non, je pense qu'il faut tout intégrer. Non, faut tout intégrer. On fait tout.
Bref. La timeline Pokémon aussi.
Et donc oui, je reviens sur le... Donc ça te permet de débloquer des capacités, double saut et compagnie, et de booster des pouvoirs.
C'est ça. Typiquement, le nombre de canettes de jus de pomme que tu peux porter. Alors le jus de pomme, c'est l'équivalent des fées hein, dans Zelda. C'est-à-dire que quand t'as plus de cœur, ça te redonne tous tes cœurs. Donc c'est une seconde barre de vie. Et donc au départ, tu peux porter 0 canette de jus de pomme. Et en fait, tu peux acheter la capacité d'en porter une, puis deux, puis trois, puis quatre. Ce qui te simplifie un petit peu le jeu. Alors maintenant, le problème, c'est que tout ça a un coût. C'est-à-dire que les premières capacités ne demandent qu'une banane pour être débloquées. Donc tu ramasses une banane, pouf. Enfin, tu ramasses 5 bananes.
Ouais.
Tu gagnes un point de capacité qui te permet de débloquer une compétence. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile. Et en général, le truc augmente au fur et à mesure. C'est-à-dire le premier cœur supplémentaire coûte un point de capacité, donc 5 bananes. Le deuxième, 2 points de capacité, donc 10 bananes, etc., etc. Et effectivement, vers la fin du jeu, il faut avoir 5 points de capacité, donc 25 bananes récoltées, pour pouvoir augmenter de 1 tes cœurs, ou ta capacité à transporter une canette de jus de pomme.
Ou à péter les matériaux difficiles, ça c'est le truc que je conseillerais de monter en premier aussi.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, chaque strate du jeu va avoir une dureté indiquée en étoiles. Donc tu commences à une étoile, c'est-à-dire que avec ton perso de base, ça marche bien. Et tu finis quand même dans les dernières strates à 5 étoiles, c'est-à-dire que là, si t'as pas augmenté ta capacité à casser des objets, ça va devenir très 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 compliqué et surtout très très long. C'est-à-dire là, le deuxième défi du collègue, c'est je le fais, mais sans augmenter cette strate.
Oh mon dieu, putain.
Il le fera,
mais tu vois, c'est peut-être ça en fait qui te fait rester dans une strate avant de passer à la suivante, ou qui te fait revenir en arrière
ouais.
Pour dire je me suis chopé un peu des bananes pour perdre moins de temps à péter les murs, quoi.
Bah moi c'est ce qui m'a fait rester un moment un peu plus longtemps pour essayer de trouver ce qui restait effectivement. Parce que t'as cette tendance à te dire déjà là sur cette strate là j'en chie un peu, c'est-à-dire quand je me lance en mode marteau piqueur sur un mur ça va pas bien vite. Et t'as vraiment, tu sens la différence. Hein.
C'est-à-dire que non, mais tout de suite.
La strat, elle est 2 étoiles et t'es que 1 étoile, ouais, tu.
Ça met 2 fois plus de temps.
Ça met vraiment 2 fois plus de temps. Voilà, donc t'as tout ce truc-là. Il y a Pauline, qui est ton compagnon, qui chante.
Ton capi.
Je sais pas si t'as eu l'occasion de jouer à deux d'ailleurs avec une personne qui fait Pauline, c'est assez marrant.
Non, j'ai pas fait encore, mais.
Alors,
elle fait la tourelle?
Non. Enfin, si, presque. En fait, si, techniquement. En fait, Pauline chante. Son pouvoir, c'est de chanter. Donc, en fait, elle te permet les transformations. On en parlera juste après. Quand elle chante, tu peux juste appuyer sur le bouton L. Et en fait, elle va t'indiquer le chemin à suivre. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que dans certains niveaux, quand on commence à tout casser, on a parfois du mal un peu à se repérer. Ça peut
oui,
arriver.
Et il marche plutôt bien. Le chemin qui est dessiné marche c'est plutôt ça. Très très bien.
T'as un pathfinding qui est assez correct. Et quand t'es proche d'un... De temps en temps, tu as des morceaux de niveau, des trucs à casser, des portes, des niveaux spéciaux, des choses comme ça, qui sont bloqués par du scotch, en gros. De la Void Company, qui est les gros méchants du jeu.
Tu veux dire que le scotch est l'obstacle qui bloque le plus Donkey Kong ?
Oui, bah oui, parce que quand tu tapes sur du scotch, et ben ça rebondit. Ça c'est parfaitement cohérent.
Je savais pas que c'était aussi fort le scotch.
Moi, je sais. Les mecs, c'est du... Voilà, c'est... les mecs, ils rigolent zéro. Hein. C'est du duct tape de ouf. Et en fait, quand tu tapes dessus, tes poings rebondissent.
C'est le scotch des flics. Hein. Tu peux pas passer, quoi.
Non, mais c'est vraiment interdit, quoi. Et donc, Pauline, en fait, elle peut casser ces trucs-là en chantant. Elle va juste détruire cette barrière-là. Basiquement, c'est un truc. Il met juste.
Alors, en fait, c'est du scotch de merde, quoi. Okay.
Il résiste pas au son. C'est très bizarre. Au point, oui, mais pas au son. Non, mais faut pas essayer de chercher la logique, je pense. Hein. Sinon, on va.
Vivement la timeline du scotch.
Un jour, on le fera. Et quand on est à deux joueurs, donc Pauline, en gros, c'est une tourelle rotative sur le dos de Donkey Kong. C'est-à-dire que le deuxième joueur peut en fait diriger un curseur à l'écran, et quand il appuie sur ZR, il peut envoyer un cri qui se matérialise sous forme d'une pierre, qui est le même matériau qu'il a pu absorber auparavant. Donc c'est ça qui est un peu le côté rigolo. C'est-à-dire que quand tu es Pauline, tu peux aller absorber de l'or et ça te fera un truc explosif. Tu peux aller absorber du caillou et ça fera des cailloux.
Ah, c'est cool.
Donc c'est assez rigolo. Le seul truc étant que, en fait, si le joueur 2 est un peu malin, il peut marteler comme un très gros bourrin le bouton et le jeu devient littéralement illisible. Tu ne vois plus rien à l'écran, tu vois juste des gros cris matérialisés, tu vois, façon bande dessinée. Il y a écrit « Ah !» comme ça, avec un H, un point d'interrogation. Et en fait, ça vole à l'écran et ça casse tout sur son passage.
J'avais demandé si tu pouvais aspirer la bombe et la spammer après.
Tu peux.
Oh mon dieu, putain.
Ah non, mais c'est vite le bordel. Hein. Par contre, jouer à deux... Alors, honnêtement, jouer à deux à Mario Odyssey, en vrai, quand tu joues Capi, tu peux t'amuser.
Jamais fait.
Bah, franchement, je pense que c'est une bonne expérience à faire. Hein. C'est... Le deuxième joueur se fait pas ultra chier.
Ok.
C'est pas le plus passionnant du monde, mais en fait, t'es vraiment là pour aider Mario, tu peux faire des conneries, tu peux rattraper des trucs. Il y a des moves qui sont plus simples à faire avec Capi et tout. Là, quand tu joues avec Pauline, c'est très marrant, mais c'est vite le bordel. Je dirais que je finirais pas le jeu avec quelqu'un sur mon épaule, quoi.
Ok.
En tout cas, pas de cette manière-là. Bref, et donc le dernier gros truc, c'est les transformations Bananza. Les powers. Alors, tu apprends des chansons, enfin, tu apprends des chansons et qui te transforment en un même TikTok. Je vois pas le truc parce que t'as la musique complètement pétée.
Ah, mais les scènes de présentation des pouvoirs sont magnifiques. Elles sont à crever de rire.
Mais même les mecs qui te les donnent, les pouvoirs, sont à crever de rire, quoi.
Ah, mais tout, même le public, les petites danses dans le public, c'est très très drôle, quoi.
C'est ça, il y a un côté très second degré, donc à chaque fois tu rencontres un grand sage. Le grand sage étant juste un animal qui ressemble aux animaux qui sont dans la zone. Alors quand on descend dans les strates, on a souvent des différents animaux qui se manifestent. C'est-à-dire qu'il y a une strate où il fait très froid, il y a des autruches. Il y a beaucoup de plateformes suspendues, il y a des autruches. Il y a une strate où il fait très froid, il y a des zèbres. Il y a une strate où il y a des serpents. Enfin voilà, il y a des animaux sous la terre. Voilà. Je voudrais qu'on arrête, s'il vous plaît, Nintendo, de faire des trucs comme ça, nous on n'y arrive pas.
Moi, j'ai vu en plus qu'il y avait genre la chef des autruches, elle avait une espèce de gros casque en mode je suis là pour écouter la musique de Jones alors qu'elle a l'air d'avoir 80 ans.
Alors, elle a 60 000 ans. C'est vraiment le chiffre qui est donné. Hein.
Mais est-ce que c'est elle a 60 000 ans, mais l'apparence d'une gamine de 10 ans? Attends,
non,
merde,
non,
je me confonds.
Non, non, c'est un fossile. Hein,
c'est un fossile, en général, c'est des vieux sages. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, faut retrouver un disque parce que c'est des DJ.
Ouais.
C'est tous des DJ.
Le lore est incroyable.
Le lore est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a une strate sous la Terre, à peu près à 1500 km, hein, c'est à peu près ça qui est donné, dans lequel il y a des zèbres qui vivent dans la neige, parce que les zèbres vivent dans la neige, et dans lequel il y a un DJ zèbre qui fait... alors c'est pas du rap, lui, il fait du dubstep. Et en fait, il a une barbe en banane. C'est incroyable que quand tu... Voilà. Parce qu'ils ont tous une barbe en banane. aussi.
Ouais, normal ça, moi aussi j'en ai une comme ça.
Ah bon ?
Faut consulter, ouais. Monsieur.
Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Hein.
Il y a peut-être des choses à voir. Mais voilà, il y a des trucs incrédibles comme ça, où effectivement, donc tu réunis le DJ avec sa musique, le mec commence à mixer, Pauline commence à chanter, et en général, c'est un mix. Enfin, c'est une chanson qui est juste. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Effectivement, on nous dit l'autruche a des baskets, mais oui, l'autruche a des baskets.
J'appelle ça des vers d'oreille, moi. Il y en a certaines où vraiment tu restes dans la tronche un petit moment, quoi.
Oui, c'est vrai. En plus, c'est une espèce de mélodie un peu entêtante, comme ça. Bref.
Alors, pour le coup, l'autruche qui a des baskets, c'est canon dans l'univers de Donkey Kong. Hein. Parce que oui, je rappelle que l'autruche dans Donkey Kong Country, je sais plus combien, elle en a aussi.
C'est tout à fait vrai. Je me suis posé la question pendant un moment, est-ce que ces grands sages ne seraient pas les anciens compagnons Donkey Kong? Parce que finalement, tu retrouves l'autruche, tu retrouves le... Alors, le zèbre, il n'y avait pas, mais il y a le serpent, il y a l'éléphant. Ils sont tous dans Donkey Kong Country. Hein. Sauf le zèbre. Donc,
ouais, il y a que le zèbre qui est pas, ouais.
Et que le zèbre et le gros singe, mais le gros singe c'est un cas un peu particulier.
J'avais vu les autruches, ça ressemble vraiment à l'autruche donc Country. Hein.
Ah oui, complètement. Je pense que c'est complètement assumé, hein, le fait que ce soit des animaux compagnons, il y a pas de problème.
Oui, bah, de toute manière, on va revenir un peu l'univers de Donkey Kong Country. Hein.
C'est ça, on y reviendra après. Pas que. C'est blindé de clins d'œil partout. Ouais.
Bref, et donc ces transformations bananza, en fait, Pauline se met, tu te mets à te taper sur la poitrine en rythme, en tant que Donkey Kong, donc tu fais boum 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 comme ça.
T'as essayé de le faire avec les Joy-Con ?
Non.
Ça marche.
Ah putain ! Ok, pas mal. pas mal. Je retire, je savais pas que ça fonctionnait. Pauline se met à chanter, tu te mets à te taper sur la poitrine comme ça, en mode boum boum boum, je suis un vilain singe. Et tu vas te transformer donc en gros singe, tu vas taper plus fort, en autruche, tu vas pouvoir... planer, voler, plus ou moins. En zèbre, tu vas pouvoir courir plus vite. Et puis, il y a deux autres transformations où je vais pas vous les spoiler. Ouais, j'ai déjà dit ce que c'était, mais les pouvoirs sont cool. Ils sont peut-être un peu moins utiles. Mais ça se discute.
On m'a dit que l'éléphant, c'était carrément pété. Hein.
Ah, l'éléphant, c'est cassé. Hein. C'est cassé.
C'est. Ouais, pour le coup, l'éléphant, c'est celui que j'aime le moins. Parce que tous les autres ont vraiment une petite mécanique de jeu. Qui est exploité un petit temps dans leur strat, l'éléphant c'est celle qui m'a semblé le plus court et le plus expédié, quoi. Genre c'est bon, c'était marrant, on passe à la suite.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toutes ces transformations, il y en a, on va dire, les trois qui ont été présentées dans le Nintendo Direct, hein, c'est les plus utiles, t'es un singe, t'es une autruche, t'es un zèbre, c'est vraiment, on va dire, les capas un peu de base. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand t'arrives dans les dernières strates, tu te rends compte qu'il y a énormément de bananes ou de fossiles ou tout un tas d'autres trucs que tu peux choper de plein de manières différentes. C'est-à-dire, tu peux te servir de la transformation serpent, tu peux te servir de « je vais casser des murs et me faire une espèce d'échelle », tu peux te servir de « je vais empiler des blocs pour faire des trucs ». Tu as vraiment énormément de possibilités pour arriver à choper des bananes. C'est très 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 ouvert. Donc en fait, si tu veux te servir des transformations, y compris l'éléphant qui est un peu cassé, tu peux le faire, mais t'es pas obligé. Finalement, tu peux rester aussi en mode un peu classique. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir un gameplay très 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 ouvert comme ça, dans lequel on te laisse faire un peu à ton idée.
C'est la question que je me posais, parce que mine de rien, c'est quand même dans un jeu où t'es très très libre. Alors, ce qui a l'air d'être une marque de fabrique des gros jeux Nintendo solo maintenant, après Zelda. Et du coup, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez un peu le sentiment qu'en cassant des trucs au hasard, vous avez... Enfin, c'est quand même amusant, vous avez quand même l'impression que c'est malin, ou vraiment c'est juste j'ai bourriné le jeu et je passe à la suite?
Tu peux tomber sur des trucs au hasard, mais pas que. Il y a certains trucs où c'est plus malin que ça. Et comment l'expliquer? T'as toujours en fait ce sentiment de « Ah tiens, j'ai réussi à casser le puzzle qui m'avait mis dans les pattes. » Peut-être que j'aurais pas dû le faire comme ça, mais c'est passé quand même, et c'était fun.
Ouais, façon Zelda, quand t'as réussi à casser un temple, là, comment ça s'appelle, un sanctuaire. Tu sais, t'as fait le sanctuaire, pas du tout comme c'était prévu, mais ça marche. Donc t'as l'impression d'avoir arnaqué le jeu, mais c'est assez cool. Sachant que, point de vue gameplay, il y a quand même un autre truc, hein, c'est que finalement, l'exploration du... on va dire du monde en lui-même, c'est une chose, mais il y a énormément de stages bonus.
Oui.
Et de défis à travers tout le jeu.
Du coup, c'est les stages bonus, c'est un petit peu comme les stages bonus de Sunshine ou certains niveaux de Mario Odyssey qui étaient dans des pièces à part avec de la pure plateforme.
C'est exactement ça.
C'est exactement ça.
Exactement ça, ou un casse-tête, ou oui, casse-tête, parce que le géomode, c'est pas que je pète tout. Ça va pouvoir être, sans trop spoiler, des petites salles bonus où tiens, il y a un truc qui coule ici, démerde-toi pour que ce qui est en train de tomber là, ça atterrisse ici.
Voilà, tu vas avoir, t'as plein, en fait, la structure du jeu étant assez ouverte, avec finalement, tu peux effectivement casser plein de trucs, mais les matériaux ont tous des, alors, tous, non, mais t'as certains types de matériaux qui ont quand même des propriétés un petit peu particulières. Il y en a qui se reconstituent, il y en a que tu peux effectivement casser qui se reconstitueront pas. Il y a des trucs plus ou moins lourds, plus ou moins légers, plus ou moins... T'as tout un tas de trucs qui fait que, en fait, tu peux toujours arriver à... Le jeu joue énormément avec la physique de ce que t'as décollé, avec ce que t'as envoyé à droite à gauche.
Vraiment, ils vont assez loin là-dessus. C'est-à-dire que t'as les propriétés de température, voire de certains matériaux qui réagissent à la lumière, d'autres qui réagissent à l'ombre...
Ouais, c'est ça. Le jeu arrive, mine de rien, à se renouveler énormément en se servant. C'est très marrant, hein. On parle depuis tout à l'heure, mais on parle de Mario Odyssey, on parle de Zelda, mais t'as vraiment des briques de base là-dedans qui sont vraiment. Les mecs ont été piochés dans les bonnes idées à droite à gauche, le moteur chimique de Breath of the Wild. Où effectivement, t'as des trucs chauds, t'as des trucs froids. Alors, on n'en est pas à des trucs qui peuvent prendre feu et tout ça, mais t'as quand même vraiment ces trucs-là, des matières très friables. Des matières que tu peux agglomérer, des matières qui sont très très dures, des matières que tu ne peux pas détruire de toute façon, des matières qui vont réagir, comme tu disais, à la lumière, ou alors à quand tu balances du sable sur la morve, là, effectivement, ça la... du sel,
ça la sèche, ouais.
Sur la morve, et ça la sèche. Enfin, t'as vraiment tout un jeu de matériaux qui est vraiment un jeu dans le jeu, pratiquement. T'as certaines strates qui en jouent beaucoup, t'en as d'autres qui en jouent moins. Mais au bout d'un moment, on te file vraiment juste une énorme caisse à outils, un gros terrain de jeu, et ben vas-y, éclate-toi, quoi.
Et à chaque strat, il y a du nouveau. À chaque strat, il y a du nouveau. Ça se renouvelle sans arrêt.
Comme un Mario Odyssey qui, effectivement, ne te laissait jamais 2 secondes respirer, t'avais une idée géniale par monde, quoi, en gros. Donc là-dessus, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est une réussite vraiment complète, hein. Tu ne t'ennuies pas, du tout.
Ça arrive à se renouveler pendant tout le jeu, du coup, même avec le concept de base qui change pas, quoi.
Ouais. C'est ça. Alors, le seul truc qui se renouvelle, entre guillemets, un peu moins, mais ça reste un peu anecdotique, c'est les niveaux, les stages bonus de combat.
Oui, on change le mob. Oui. Il y a un peu de recyclage là-dedans.
Voilà, t'as 2 types de stages, grosso modo. T'as des stages que tu débloques, hein, qui sont disponibles dans le monde, c'est une espèce de grande porte. Donc tu y vas, t'as des portes, t'as des puits, t'as des machins comme ça. En gros, t'en as où c'est vraiment juste, bah, il y a 3 ennemis à battre, balai. Alors, des fois, c'est un peu original et intéressant parce qu'on t'interdit d'utiliser certains trucs. Voilà, façon Mario Galaxy, on te dit, bah, tu vas faire la même chose, mais il va falloir le faire en 4 secondes. Ok, donc il faut battre tous ces ennemis en 4 secondes. Donc, faut trouver l'astuce, mais généralement, c'est pas bien compliqué, c'est pas hyper intéressant. Par contre, les défis, les autres portes, t'as des portes où t'as généralement 3 bananes. Donc t'en as deux qui sont généralement assez faciles à... Enfin, il faut déjà avoir compris ce que te demande le défi, mais si t'as compris ce que te demande le défi, t'arriveras à les récupérer. Et t'en as une troisième qui est en général bien planquée.
Qui est planquée, c'est ça.
Vraiment bien planquée.
Ah, c'est genre les bananes vertes les étoiles vertes, pardon, de Mario Galaxy 2. Hein.
Ouais, ça ressemble à ça, c'est-à-dire faut vraiment... T'arrives dans un truc, en général, tu vas choper la première banane, parce qu'elle est plus ou moins sur ton chemin.
Elle
la
est
dernière,
en chemin.
Parce que t'arrives au bout du niveau. Et puis tu vas te dire, putain, mais elle était où la deuxième, là? Parce qu'en fait, j'ai rien vu. Et là, il va falloir vraiment commencer
casser
à...
Casser le puzzle.
Casser le puzzle. Exactement, okay. Casser le puzzle.
Ça sert, là. Et donc,
il va aller envie de s'acheter de Switch 2.
Non, mais en vrai, ce jeu me fait envie, parce que quand j'ai vu que c'était Mario Odyssey 2, Mario Odyssey, vraiment, j'adore ce jeu. J'y ai rejoint un peu pendant les vacances. Et surtout, moi, ce que je trouvais vraiment cool, c'est à quel point Mario, il est agréable à manier. Du coup, ma question, c'est, est-ce que DK, c'est pareil?
Il est un peu plus lourdeau, je dirais.
Avec plus lourdeau, peut-être un peu plus lent jusqu'à ce que tu comprennes que tu puisses spammer la roulade et...
Oui.
Et ça roule. Okay. Le truc un troublant, c'est le fait qu'il s'accroche au mur et au plafond.
Ouais, il s'accroche partout comme Link, quoi.
Il s'accroche partout comme Link. Non, mais en fait, en vrai, il y a vraiment, en termes de gameplay, des éléments de Zelda, des éléments de Mario, des derniers Mario qui ont été... Genre, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Est-ce qu'on peut se faire un gros melting pot?
Tu peux faire du surf sur les rochers, moi, je trouve ça génial. Hein.
Oui.
Et là aussi, le matériau avec lequel tu surfes est important.
Oui, j'avais vu, tu avais des matériaux qui peuvent rebondir, du coup tu peux les utiliser pour te faire un troisième saut. J'avais regardé, je crois que c'était une vidéo Game Donkey qui avait essayé de passer un des premiers sauts un peu longs du jeu. Il s'est dit non, mais moi je vais pas grimper au mur, je vais essayer de faire le saut en utilisant les rochers pour rebondir, quoi. En mode speedrun.
Mais t'as des... Enfin... En fait, au bout d'un moment, tu finis par prendre le réflexe. Au départ, la répartition sur la manette des commandes est un peu bizarre, tu vois, parce que tu sautes avec le bouton A. Mais finalement, t'as pas vraiment de double saut. Enfin, t'as un double saut, mais qui arrive un peu plus tard.
Il se débloque à coup de banane.
Voilà, il se débloque à coup de banane. Mais en fait, au bout d'un moment, tu prends assez vite le réflexe, quoi. Il y a un mur devant toi, bah tu bourrines le bouton Y pour te creuser un chemin, puis à un moment, faut que tu montes, bah tu bourrines le bouton X et le bouton A. Puis en fait, c'est assez naturel, tu vois, de faire du géomode, d'aller vraiment creuser à l'intérieur de la pierre. Tu vas te creuser des galeries, des machins, des trucs. Et en fait, l'essentiel du gameplay, c'est pas vraiment de la plateforme. Un peu. T'as des passages de pure plateforme.
Voilà, il y a certains passages où t'es obligé. C'est que ça, quoi. Certaines bananes qui vont te demander vraiment des plateformes un peu tricky.
Voilà, mais l'essentiel... du jeu, c'est quand même beaucoup creuser, explorer, finalement s'amuser avec la physique du jeu.
Oui, c'est vraiment le pendant exploration des plateformes 3D qu'on avait à l'époque de 64.
C'est ça. De ce point de vue-là, c'est là où je me dis, est-ce que c'est pas un peu l'héritier de Donkey Kong 64 où finalement t'avais un peu le même genre de truc où l'idée c'était de te dire, bah tiens, regarde, il y a une banane là, vas-y, essaye, tu vois. Essaye de la choper.
Mais avec les contrées moins contraignantes, devoir changer de personnage pour obtenir les bananes de la même couleur, ça serait vraiment...
Oui, là, t'as tes pouvoirs et puis roule, quoi.
En fait, à la limite, tu changes de pouvoir, et même j'ai découvert, alors, vous moquez pas, j'ai découvert quasiment à la fin du jeu, que en fait, tu utilises le D-pad, les touches gauche et droite, pour changer de Bananza, mais en fait, une fois que t'es transformé en gros singe ou en autruche... Non, mais c'est pas ça, c'est que tu t'appuies sur la touche et tu bascules de l'un à l'autre.
C'est trop bien ça. Oui, j'avais vu dans les trailers que tu pouvais enchaîner les trois, si tu voulais. Enfin, les trois premières.
Et moi, en fait, au départ, je savais pas. Donc, à chaque fois, je me détransformais, je changeais, et puis je me retransformais parce que je suis con. Alors qu'en fait, il suffit juste de faire gauche-droite, et puis tu changes, quoi. T'as un mode normal, et t'as un mode un peu explosé, et en plus, ensuite, derrière, tu choisis finalement ce que t'as besoin de faire à ce moment-là, le pouvoir dont t'as besoin à ce moment-là. Et encore une fois, t'as plein de façons de passer les trucs. Hein. Tu peux vraiment quasiment tout faire sans avoir les transformations Bananza, à part les trucs qui sont vraiment spécifiquement...
C'est ça, il y a certaines bananes où ça sera obligatoire.
Alors, il y en a une, c'était obligatoire, je lui ai cassé sa gueule. Hein.
C'est vrai ?
Oui, okay. Il y en a deux ou trois où tu...
Parfait.
Tu peux le tenter. Ça se fait.
Ah, de toute façon, j'ai l'impression que c'est comme Mario Odyssey. T'as le chemin normal, et t'as le chemin pour les gens qui sont un peu des tarés de la manette.
J'irai pas jusque là, mais il y a vraiment des trucs où tu peux...
Mais Mario Odyssey, tu sais comment fonctionnent les sauts dans le jeu, tu te fais plaisir, hein, donc je pense que Donkey Kong, c'est pareil.
Alors, t'as un peu moins de possibilités de saut, t'as peut-être un peu moins de ce genre de truc-là,
oui,
mais
après,
que...
tu peux détruire le terrain.
C'est ça, en fait, il y a des trucs... Moi, je te dis, le comparatif, c'est plus Zelda, c'est-à-dire, il y a des trucs où tu arrives face à une énigme, entre guillemets, un challenge, un machin, et en fait... C'est vraiment, t'arrives et tu te dis, ah, mais je peux faire ça, tu vois, je pourrais faire rebondir la balle qui est là pour aller l'envoyer là, et puis ça ferait ça, exactement comme dans un sanctuaire. Bah, tu vas le faire, tu vas galérer, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, la troisième ça marche, et puis une fois que tu l'as fini, tu te rends compte que, ah, mais en fait, non, ce qu'il fallait faire c'était prendre le bâton et faire ça. Mais t'avais pas vu, ou t'avais pas compris, ou c'est pas l'outil que t'avais envie d'utiliser à ce moment-là. Voilà, c'est du gameplay émergent, hein, c'est vraiment, et c'est fait exprès. Là-dessus, c'est
ils,
vraiment...
ont, ils ont l'air d'être devenus assez bons chez Nintendo, en tout cas dans leurs équipes de gros jeux, pour justement arriver à se dire on va faire des niveaux de level design qui tiennent la route, mais qui fonctionneront pour des gens qui veulent être très libres dans leur façon de jouer et qui veulent essayer de trouver les chemins alternatifs. Ouais. Enfin, c'était vraiment Zelda, c'est ça, les deux derniers, c'est ça. Un petit peu moins Echoes of Wisdom, même s'il y avait l'idée. Et donc, Donkey Kong, ça a l'air d'être ça pour le coup.
Ah, c'est complètement ça. Tu peux te faire vraiment plaisir en mode. T'as des moyens très naturels de faire les choses où on te guide, on te dit, bah voilà, là c'est peut-être plus malin d'utiliser le serpent. Regarde, si tu utilises le serpent, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais en vrai, t'as pas envie de faire ça, t'as envie d'utiliser l'éléphant, t'as envie de faire autre chose, ben, tu trouves toujours une douille pour arriver à le faire, quoi. C'est assez rare d'être vraiment coincé à faire ce truc-là. Moi, je trouve ça assez ouf de ce point de vue-là, c'est vraiment... Bref, il faut qu'on parle un tout petit peu de DA, parce qu'effectivement, enfin, de DA, d'écriture, d'humour et autres, parce que là aussi, on a un peu la patte Odyssée, hein. On a des musiques qui sont assez folles. Alors, vous avez pu écouter quelques extraits pendant l'émission, mais c'est un... Donc, les transformations de Bananza sont toutes complètement délirantes, hein. Les musiques sont juste génialissimes, c'est incroyable. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a des musiques de certains niveaux qui sont extrêmement bien vues.
Bah, le troisième niveau, j'ai adoré.
Il y a vraiment des trucs très 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 chouettes. Il y a de très très beaux hommages à Donkey Kong Country, à Donkey Kong 64, au Donkey Kong Country Returns.
Vraiment... Et pas que.
Et pas que. Oui, parce qu'il y a le Donkey Kong original aussi, hein. Vous vous doutez qu'à un moment, il y aura un immeuble à monter avec des grosses poutrelles rouges et puis des tonneaux. Hein. Voilà. Je vous cache, c'est pas un gros spoil, hein. ça va forcément arriver. Il y a plein de personnages à retrouver de l'univers de Donkey Kong, on spoilera pas tout. On a un petit peu parlé en off, mais voilà, on a parlé de Cranky, mais il y en a d'autres qu'on croisera.
Il paraît, il y a Pauline.
Il y a Pauline, ouais. Il
paraît. Alors, laquelle, du coup?
Putain, stop. Alors, est-ce qu'il y a des clins d'œil à Donkey Kong Country 3? Oui. Bah, pour moi, l'éléphant, c'est clairement, il y a un clin d'œil à Donkey Kong Country 3. Mais il y a pas mal de gros clins d'œil. Les bestioles ont une, enfin tous les animaux, oui, tous les NPC,
les fractons, très drôle.
C'est ça. Ils ont un petit humour un peu bizarre en fait. Alors pour expliquer, les fractons, c'est des espèces de pierres vivantes finalement dans ce monde. Donc ils sont destructibles comme n'importe qui. Hein, c'est les fameux trucs, quand tu les tapes, ils se reconstituent. Et en fait, tous les fractons ont une petite personnalité un peu bizarre. Il y a un fracton majordome, il y a...
Ouais, ils ont des formes. Mais tu vois, encore une fois, idée à la con. Tiens, on va faire un caillou qui parle. Puis tu tires l'idée, et puis t'arrives à des trucs assez craqués, quoi.
Et puis t'as des trucs assez méta aussi, hein. T'as des mecs... T'en as un qui disait, je suis conscient d'avoir la peau dure, mais quand même, c'est un peu raide, quoi. T'es là, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet univers?
J'aime beaucoup les petits dialogues qui pop quand tu passes à côté de certains PNJ.
T'as des trucs assez ouf.
Genre, je sais pas, t'as un bonhomme sur un bateau qui te dit « Tiens, j'aime bien pêcher. » Toi, t'arrives, gros connard, tu exploses le bateau. Il dit « Bah non, finalement, j'avais juste envie de nager, quoi. »
Ouais, t'as plein de dialogues interactifs comme ça qui fonctionnent très bien en fonction de l'état dans lequel est le décor aussi. Parce que comme tu peux à peu près tout détruire, tu peux aussi détruire les maisons dans les villages.
Oui.
Et il y en a certains où, en fait, quand t'arrives dans la maison et que tu leur parles, ils te disent « Putain, je viens de refaire la cuisine », genre, tu défonces tout, tu démolis tout, il fait « Bon, ben, va falloir recommencer. » Et t'as plein de petits clins d'œil comme ça, un peu partout, qui sont très drôles ou très attachants. Enfin, voilà, il y a vraiment des trucs vraiment très, très, très bien. Avec, en plus... Je le dis, c'est un petit peu un spoil, mais je vous le dis, il y a un très très gros hommage très très appuyé à l'ensemble de la trilogie Donkey Kong Country originale vers la fin du jeu. J'en dirai pas plus que ça, mais il y a vraiment des trucs où c'est drôle parce que c'est vraiment du second degré aussi sur certains trucs.
Je le tente, hein, ça fout la banane.
Effectivement. Mais t'as vraiment quelques trucs très 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 bien vus où tu te dis, ok, bon, c'est drôle, c'est marrant, c'est ludique, ça reprend une mécanique originale, t'as le petit côté, le sourire en coin, quand tu connais bien Donkey Kong Country, t'as le petit sourire en coin. Moi, j'avais même les gamins qui étaient en train de regarder qui disaient, ah, mais on l'a déjà vu celui-là, papa. Oui, vous l'avez déjà vu, oui, vous connaissez.
C'est oui, dans Super Smash Bros.
Exactement, alors c'est exactement ça, hein, c'était genre, bon, c'est pas un trophée dans Smash Bros, celui-là? Je fais, effectivement, c'est un trophée.
Ce qui est bien avec il est dans Smash Bros, c'est que ça marche avec quand même beaucoup de choses.
Ouais, non, mais là, oui, mais celui-là, il est un peu évident.
Putain, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une banane secrète. Si vous connaissez le premier Donkey Kong Country, elle est très facile à trouver.
Ah, oui, oui. Oui, effectivement, il y en a une, elle est évidente.
Sinon, c'est une galère, mec.
On est bien d'accord. Mais il y en a quelques-unes qui sont évidentes. Bref. Donkey Kong Bananza, franchement, alors si vous n'aviez pas acheté de Switch 2 pour Mario Kart World, je pense que Donkey Kong Bonanza, on commence à se rapprocher de quelque chose qui fait un peu
franchement
plus envie.
Le coup. Voilà. Il vaut franchement le coup.
Je crois qu'on a quand
le...
même quelques belles sorties en fin d'année, là, en plus.
Plus, oui, on va avoir quelques beaux compléments. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je peux comprendre que si c'est juste pour jouer à Zelda en 60 FPS... Mario Kart World, encore une fois, c'est pas du tout un mauvais jeu, on en a parlé il y a deux semaines. Hein. C'est compliqué de justifier l'achat d'une console juste pour lui en l'état.
Voilà. En l'état.
Ça va finir par venir, je pense, mais... Ça va être un long seller de toute façon, mais c'est compliqué. Par contre, Bonanza, bah c'est cool.
Ouais, en y a vrai, tout ce qu'il faut. Et le jeu est vraiment généreux. Hein. Ça, c'est, il y a de quoi faire. On s'ennuie jamais. Techniquement, ça tient le choc, un truc de dingue, même quand c'est le bordel à l'écran, quoi.
Putain, oui. C'est-à-dire quand t'as Pauline qui commence à hurler, t'as des bouts de pierre partout, t'as démoli la moitié du niveau. Et
avant de rester dans Xenoblade, hein.
Ah bah, voilà, le jeu ne bouge pas, ça fait quand même plaisir, enfin bouge très très peu, je l'ai vu ramer de temps en temps, mais...
Ah oui, c'est genre très stable.
C'est extrêmement stable, sauf, je crois que c'est vraiment genre les tout derniers niveaux où effectivement il y a un moment où c'est vraiment vraiment le gros bordel, et là tu sens que ça en chie un peu plus, tu sens que là, le fait d'avoir plein de surfaces réflectives, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde.
le bouquet final, ouais.
Ah bah ouais, voilà, la Switch 2 peut pas tenir le ray tracing. Console de merde.
Monsieur, hein. Ça, voilà, c'est quelle console de merde.
Mais je me souviens que les développeurs avaient dit que le jeu, à la base, ils avaient testé de le faire sur Switch et ils se sont vite rendu compte que ça allait être compliqué.
Bah, alors, t'as peu de physique à gérer parce que finalement, le monde est une espèce de voxel. En fait, c'est-à-dire que quand tu détruis une cellule...
C'est que ça.
Ouais, c'est ça. Quand tu détruis une cellule, elle est détruite et puis c'est tout. T'as même une touche dans le... T'as même un truc dans le menu pause pour reconstituer tout le niveau.
Oui, la carte. La carte, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Elle est très très bien.
Ah oui, il y a une carte 3D, oui, c'est vrai. Putain, j'ai oublié. Elle est vachement bien parce qu'elle te permet effectivement de super bien te repérer. Tu peux te téléporter n'importe où avec un verre de roche.
Ouais, une anguille.
Une anguille qui te gomme.
Truc non, mignon. Mais
apparemment, c'est l'endroit qui rame le plus du jeu, la carte.
J'ai pas trouvé.
Elle est en 30 FPS, la carte. Hein.
Ouais, mais c'est une map, on s'en fout. Quoi. Mais c'est le fait qu'elle représente la modée du niveau telle que tu l'as bousillée, c'est plutôt cool. Quoi.
Ouais, et puis ça rend bien. Puis en fait, ça te permet vraiment bien de te repérer. Encore une fois, t'as plein de... Tu ne galères jamais à naviguer dans ce jeu. Jamais.
La caméra tient plutôt bien le choc. Bon, il lui arrive de se foutre dans des angles morts quand on a creusé dans un endroit où il fallait pas, entre guillemets. Mais voilà, trois coups de pioche dans une direction et elle se recale correctement. Quoi.
Voilà, bref. Un excellent jeu, encore une fois. Je pense que... Il ne justifie probablement pas à lui seul d'acheter une Switch 2. Mais clairement, ça va peser dans la balance parce que ça vaut le coup. De ce que j'ai compris, on n'a pas testé le DLC. Je sais pas pour toi, Becto, moi je ne l'ai pas acheté.
Non.
De ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire, ça a l'air d'être assez décevant. C'est-à-dire, les retours que j'en ai vus, c'est plutôt tout ça pour ça. Je ne sais pas, je vous dis juste jusqu'à présent les retours que j'ai vus. Peut-être que je l'achèterai, j'en sais rien, on verra. Pour voir un peu, pour me faire un avis, parce que bah, visiblement, cette histoire de course à l'émeraude, ça a l'air pas fou.
Ah, disons que c'est pas... A priori, c'est plus un truc en mode roguelike qu'un un contenu vraiment dense, quoi.
C'est comme d'hab. Hein, c'était mon argument sur Mario Kart World. On dit, moi, pas système seller en l'état, parce que 90 balles. Peut-être que ce DLC-là, s'il n'était pas vendu à 20 balles, ça passerait mieux, quoi.
Ouais, il y a peut-être un truc là-dessus qui fait que, mais bon, voilà. En tout cas, pour là, je considère pour ce, voilà, 70 balles. Enfin, si t'as acheté une Switch 2, à mon avis, pour l'instant, il y a deux jeux qui valent effectivement le coup. Alors, tu aimes bien, c'est les deux seuls exclus. Oui, c'est vrai. Mais voilà, t'as Mario Kart World, t'as Donkey Kong Bonanza, je pense que t'es quand même refait pour un moment, quoi. T'as vraiment de quoi t'amuser.
Ouais, il y a de quoi tenir.
Il y a de quoi tenir, il y a de quoi se faire plaisir.
Parce que le 100%, là, on n'y est pas encore, hein, sur le Bonanza.
Ah, écoute, t'as combien de bananes
J'en ai, je crois, 482.
Bah, c'est pas trop mal, hein. Le 100%, c'est 500 bananes. Hein.
C'est pas 700. Il n'y a pas des bananes bonus à la con qu'on peut acheter tout simplement.
Si, mais peut-être. Je sais pas.
Moi, c'est comme dans Odyssey où on pouvait en acheter à la fin.
Tout à fait. Moi, j'ai 399 bananes. J'ai fini le jeu.
Ok. D'accord.
Et j'avais compris 500. Peut-être que c'est 600. Hein. Je me trompe peut-être. C'est peut-être 600, c'est peut-être même 700. Effectivement, je me trompe peut-être. Mais il y a un nombre assez conséquent. Mais voilà. en explorant de manière organique et en allant juste faire la pie normalement.
Oui, parce que ça arrive aussi, ça.
399 bananes, donc je pense que tu récupères facile la moitié des bananes du jeu.
Je vais aller là, ça m'a semblé trop rapide. Je vais faire demi-tour et explorer un peu.
C'est ça. Ah, il y a un truc qui bouge. Ah, il y a un truc bleu.
Il y a un truc qui a rien à foutre, là. Allez,
bam, 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 bam. Mais sauf que la différence, c'est quand tu le bourrines.
Après, tu devrais utiliser ton sonar de singe. Ça pourrait être utile.
Ça, on le spam. Ça, on le spam.
Bref, bon, je vous propose de nous arrêter là, parce que ça fait déjà très très long comme émission. De se retrouver dans deux semaines, dans une semaine en podcast, si j'ai le temps. Alors, faut espérer qu'il n'y ait pas 50 gouvernements entre deux, hein. Ça fait partie des petits aléas qui fait que t'as du mal à être productif. Hein.
On s'en fout, plus que 3 premiers ministres et c'est Noël. Il
fallait qu'on la fasse celle-là aussi.
C'est pas mal.
Voilà, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je sais qu'il y a, il y a quelques sorties prochaines qui arrivent. Voilà, donc peut-être qu'on... j'en sais rien. Voilà, on verra bien. Je sais qu'il y a... Alors, je crois... Non, Kirby Air Rider, c'est pas tout de suite. Je crois qu'il y a 2-3 trucs...
C'est octobre ou novembre, Kirby Air Ride, non ?
Ouais, c'est fin novembre, moi, je croyais.
Je crois qu'il y a le Pokémon la semaine prochaine en jeu du mois d'octobre.
Ah oui, ouais. Il y a Légende Zelda.
C'est ça. Donc peut-être qu'on fera ça, je ne sais pas. On verra. On regardera ce qu'on fait. En attendant, on vous fait de très 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 gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde !
Ciao, ciao.